Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
14h58 sur RMC, merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport. On est ensemble pendant 2h jusqu'à 17h et on est avec Sébastien Piocelle. Salut Seb.
Salut Flora, bonjour à tous.
Évidemment, l'info du jour, Seb, malheureusement, on n'aura pas notre choc ce soir en Ligue 1 entre l'OM et le PSG. Le match qui devait avoir lieu à 20h45 au Vélodrome a été reporté à une date ultérieure en raison des conditions climatiques très difficiles dans le sud de la France, notamment ce soir avec les orages. On vous donnera les toutes dernières infos. Évidemment, on a envie de savoir quand est-ce que ce match va être reporté. Ça pose des questions avec la cérémonie du Ballon d'Or qui se déroule demain soir aussi à Paris. Les Parisiens sont évidemment concernés par cette cérémonie. On va suivre aussi, Seb, dans quelques instants, le coup d'envoi de ce Paris FC Strasbourg. Cinquième journée de Ligue 1, ça se passe à Jambouin, avec une ambition pour les Parisiens enchaîner une troisième victoire de rang. On va tout de suite aller à Jambouin retrouver Arnaud Valadon avant de vous donner les dernières infos depuis Marseille. Salut Arnaud.
Salut Flora, salut Seb, salut à tous. Salut. Il fait beau,
ouais, c'est ce
à
que
Jambouin,
demander,
il y a du soleil.
Voilà. Pas d'orage, j'allais te demander un petit point météo parce que c'est un petit peu le running gag du jour. Tout se passe bien sous le soleil de Jambouin a priori. Bon, il y a un petit peu de fumigène là, on voit pas grand chose.
Oui,
quand même.
Oui, c'est les fumigènes. Bon, le match va quand même commencer dans quelques instants avec le coup d'envoi qui sera donné par les joueurs du Paris FC. On a le droit de belles éclaircies, un petit 17-18 degrés, ça reste un temps assez idéal. Ouais, franchement, au moins ça va jouer. Et c'est vrai que ce presque choc de Ligue 1 entre le Paris FC et Strasbourg, ces équipes qui ont pas mal dépensé sur le marché des transferts, évidemment les Strasbourgeois avec près de 100 millions d'euros investis, le Paris FC, ce promu qui a aussi beaucoup recruté, et la dernière recrue, Amari Traoré, qui fait son retour au Paris FC, qui est titulaire sur le côté droit. C'est parti ici à Jambouin, une 1000 spectateurs, un parquage strasbourgeois aussi plein, qui pour l'instant n'est pas vindicatif parce que vous le savez, il y a des soucis entre la direction et certains supporters. Il y a conférence de presse de Marc Keller, le président, qui avait été visé par des banderoles dans la semaine pour annoncer un certain nombre de mesures. Mais là, place au football, Emmanuel Emega est sur le banc, il revient de blessure, il n'est pas titulaire, mais le meilleur buteur, l'Argentin Panicelli, côté strasbourgeois, est présent. Le ballon pour les Parisiens qui vont essayer de se dégager sur le côté gauche, la composition parisienne avec Nkombadieu dans la cage, Mbo Chergui en défense centrale, Sangui à gauche, Traoré à gauche, Maxime Lopez, Pierre Lespelou et Camara au milieu, et le trio d'attaque, Kebal est élu meilleur joueur d'août de Ligue 1, titulaire, Jebels et Moses Simon, l'ancien nantais, côté strasbourgeois. Un 3-4-3 avec Penders dans la cage. Chilwell, Doucouré, Sarr en défense centrale. Barco, El Mourabet, Ouattara au milieu. Plutôt un 3-5-2. Ensuite, on aura Godot sur piston gauche. Moreira sur le piston droit. Et Panicelli et Kendry Paez, ce jeune équatorien de 18 ans, titulaire donc pour cette formation de Liam Rosenior, qui a été acclamé par une partie du parquage. Le ballon pour les Parisiens. On est parti depuis 2 minutes, un petit peu moins. Jambouin est 0-0.
Ouais, on parlait de choc là, dans la bouche d'Arnaud Valado.
Bien vendu.
Bien vendu. C'est vrai qu'on est privé.
Oh, la frappe.
Regarde, tu vois,
des Parisiens. Exactement, attention, c'est pas terminé avec Ilan Kebal dans la surface de réparation. Le centre à venir de Kebal, ça va être renvoyé dans un premier temps. Le ballon qui va revenir. La frappe sourde. Nouvelle arrêt de Penders. Kebal. Oh, l'arrêt de Mike Penders. Le double arrêt magnifique du gardien belge là-dessus, qui a été sollicité une première fois alors que Kebal reste au sol. L'arbitre de la partie qui vient d'arrêter provisoirement la partie. Mais alors, quelle double parade de Mike Penders, sollicité sur une frappe en dehors de la surface de réparation. Il repousse le rebond qui est laissé à Ilan Kebal, qui était visiblement en position de hors-jeu. C'est ce qui est signalé par l'arbitre de la rencontre. Mais malgré tout, il s'est illustré. Quel gros match.
Il s'est vite relevé. Et c'est vrai que déjà, sur la première frappe, il est un peu masqué.
Déjà, il la sort bien, première frappe. Ouais. Et après, il y a la double parade. Il y en a trois en quelques secondes. Alors, il l'a dit, Arnaud, il y a hors-jeu sur le coup, sur la reprise juste derrière. Mais quand même, quand tu as le gardien qui, dès le début, comme ça, s'illustre, ça peut peser aussi dans les têtes, Seb. Hein.
Ouais, alors, est-ce qu'il va nous sortir le gros match? Mais c'est vrai que le PFC fait un bon début de rencontre. Ils sont sur une bonne dynamique. Hein. Ils avaient démarré par deux défaites. La fin de mercato a été plutôt bonne. Hein. Ils ont réussi à faire venir notamment Lesmelou et Traoré, là, qui débute. Donc non, moi je suis un peu de l'avis d'Arnaud. C'est affiche de Ligue 1, je sais pas, mais en tout cas ces deux acteurs importants du dernier mercato, avec des philosophies notamment de jeunes du côté de Strasbourg que j'aime bien. et du côté du PFC, on a envie de voir. Mais en tout cas, sur le papier, il y a une équipe qui est en place et qui a l'air plutôt intéressante.
Oui, surtout quand tu regardes le début de saison des deux équipes, Strasbourg 6e, PFC 10e au coup d'envoi. Surtout Strasbourg réalise un très gros début de saison avec seulement cette défaite d'un rien.
Et si Strasbourg gagne, Flora, il sera auteur du PSG. Mais oui. Il aura évidemment un match en moins.
Ouais, mais c'est dire aussi le début de saison de ces Strasbourgeois. Tu vantais le projet mis en place aussi par Strasbourg, et c'est le cas, Seb.
Ouais, il y a vraiment quelque chose à créer. Il plaît pas à tout le monde, mais en tout cas pour les suiveurs, mais mis à part cette défaite face à Monaco, et il faut dire qu'il y a eu aussi pas mal de changements parce qu'ils ont vendu et bien vendu certains joueurs. Certes, ils ont bien acheté, mais ils ont aussi bien vendu. Et c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop changer. Il reste sur la dynamique de la saison dernière. Et voilà, c'est très très intéressant ce qu'ils produisent, et notamment avec un entraîneur que j'apprécie. Donc voilà, il faudra peut-être compter sur eux avec une seconde saison, peut-être avec un peu plus d'expérience et de maturité pour ce groupe.
Là, tu parlais des ventes, Dylan Bakwa, Habib Diarra notamment, ça c'est plus de 30 millions d'euros, c'est des chiffres assez significatifs. Donc la balance n'est pas non plus... très négative pour Strasbourg. Ça n'a pas non plus été énormément d'achats sans vente, mais c'est vrai qu'après tu vois plus de 15 millions investis sur Panicelli, cet avant-centre argentin qui était en Liga, Augsburg, le défenseur central qui est blessé, qui est pas là. Donc voilà, ça, il y a beaucoup quand même de turnover, même si tu gardes des joueurs assez fidèles.
C'est ça qui est un peu compliqué, voilà, pour les supporters. C'est qui a beaucoup de mouvements à chaque intersaison, et qu'on a du coup un peu de mal à s'identifier aux joueurs, même si les bons résultats aident aussi à avaler un peu la pilule, on va dire.
Oui.
D'où le côté très partagé des supporters.
C'est ça, c'est ça.
Parce qu'on parle du conflit. Marc Heller dit que c'est une minorité. Et tout à l'heure, Liam Rosenior a été acclamé par la moitié du parquage. Pas forcément les Ultra Boys 90 qui sont en conflit ouvert avec la direction comme d'autres groupes de supporters. Mais peut-être que la voie est à l'apaisement, parce que dans la semaine, jeudi, Marc Heller a fait une conférence de presse pour annoncer des mesures qu'on peut qualifier un petit peu de restrictives. Le retour des stadiers en tribune ouest à la Méno, moins de facilité d'accès à certaines salles mises à disposition à la Méno pour les animations, que ce soit par exemple la confection de tifo, voilà, le retour d'un certain nombre de mesures. Les groupes de supporters ont indiqué là dans les dernières 48 heures avoir fait un pas en avant et contacté le club pour voilà, échanger et peut-être opter pour des solutions un peu moins radicales. Attention, le ballon pour Godot sur le côté gauche pour les Strasbourgeois qui rentrent dans la surface de réparation. Le retour de Marie Traoré. Godot qui est légèrement déséquilibré, mais monsieur le Texier fait signe. Il n'y a rien. 0-0, 6 minutes de jeu.
Ouais, juste pour revenir à Rossignol, je ne vois pas comment il pourrait ne pas l'acclamer, parce que pour le coup, lui, c'est l'entraîneur. Et j'ai envie de dire, il fait avec ce qu'il a, et il a du matos, comme on dit. Mais donc lui, il fait vraiment ce qu'il faut avec son effectif.
Alors Rosenior avait vraiment défendu Emmanuel Emega, en fait, le capitaine qui avait été sifflé. Il a été visé par une banderole alors qu'il ne jouait pas la semaine dernière.
On va évidemment garder un œil sur ce PFC Strasbourg, mais vous le savez, l'info du jour, c'est du côté de Marseille que ça se passe, avec le report du choc ce soir entre l'OM et le PSG qui devait avoir lieu à 20h45. On va aller retrouver Flo Germain justement sur place pour les dernières infos. Salut
Monsieur
Flo.
Météo, c'est Monsieur
salut
Météo.
Florent.
Laurent Romesco,
salut,
on va t'appeler.
Salut Flo. Ouais, exactement. Si vous voulez, bah écoutez, je peux vous faire un petit tableau, une carte postale. Il pleut, hein. Il pleut sur Marseille et le ciel est très orageux, menaçant, et on imagine ce qui va tomber dans les heures qui viennent. Et on rappelle que il y a une vigilance orange en cours dans plusieurs départements, notamment les Bouches-du-Rhône, et c'est ce qui a poussé la préfecture à prendre cette décision du report de la rencontre au MPSG.
Ouais, décision prise relativement tôt dans la journée. Il y avait potentiellement la possibilité aussi qu'on attende le dernier moment pour choisir, avec l'arbitre prenne la décision. Là, la décision, elle a été prise bien en amont, hein.
Mais c'était un souhait de la préfecture, dans le sens où ce qui préoccupait les autorités au-delà de la tenue du match, enfin, c'était presque pas prioritairement la tenue du match, c'était surtout le déplacement massif de supporters. On a quand même affaire à 65 000 spectateurs qui se déplacent. Il faut savoir qu'il y a quasiment un tiers de supporters, voire un peu plus d'ailleurs, qui viennent au Vélodrome, qui ne sont pas des Bouches-du-Rhône. Donc Marseille est supportée bien au-delà du département, et surtout pour une rencontre d'un tel niveau, une telle affiche. En général, on prévoit les choses bien en amont. Clermont, on vient d'un peu partout en France, et donc il y a des déplacements qui peuvent être importants, surtout un retour de week-end. Donc c'est ce qui a préoccupé la préfecture. Mmh. C'est pour ça que la décision a été prise relativement tôt. Alors peut-être que certains auraient aimé qu'elle soit annoncée ou anticipée dès la veille pour que tout le monde puisse s'organiser.
Comme ça avait été ça, on aurait reproché.
Exactement,
trop tôt.
Exactement.
On se rappelle de le cas des écoles à la rentrée là.
Rappelons justement, oui, c'est important que tu le dises, Seb, que dans les Bouches-du-Rhône, la rentrée scolaire avait été reportée d'une journée pour justement permettre aux parents d'accompagner les enfants dans de meilleures conditions, puisqu'il y avait une vigilance orange le lundi de la rentrée. Donc la rentrée scolaire s'était fait le mardi. Et d'ailleurs, je précise, même si c'est une petite coïncidence, que le règlement de la LFP dit aussi que le match doit se jouer le lendemain. Donc comme la rentrée scolaire des enfants, on décale au lendemain.
Ouais. C'est
ce que veut l'OM.
C'est évidemment la grande question qu'on se pose maintenant. Hein,
c'est ce que
Flo,
dit le règlement.
C'est l'après. Quand est-ce que ce match va être rejoué? Le lendemain. Donc tu parles le lendemain. Est-ce qu'il y a une condition d'horaire? Parce que nous, on pense le soir. Mais est-ce que c'est indiqué sur le règlement que ça doit être le soir? Il y a un horaire précis ou pas?
Non, il est stipulé le lendemain.
Ok.
Prenons les choses dans l'ordre. L'OM estime que le règlement est clair et net, que c'est écrit noir sur blanc, que le match doit se jouer demain, et peu importe s'il y a une cérémonie par exemple du Ballon d'Or. Suivez mon regard. Du côté du PSG, on travaille avec la cellule foot et avec nos reporters qui suivent le Paris Saint-Germain. On est un peu contrarié évidemment par cette situation, parce qu'il y a une forte possibilité que ce soit ou pas un Parisien qui soulève le Ballon d'Or, et donc forcément qu'il y a un match en même temps, ça peut être un peu contrariant. Ouais. L'OM en s'appuyant sur le règlement est très clair sur le fait qu'il faut que ça se joue demain soir si possible, parce que par respect pour les supporters, imaginez pas un match à 15h, 16h, 17h, ça n'aurait pas trop de sens, un match comme OM-PSG. Donc est-ce qu'on va trouver un terrain d'entente avec un match demain en début de soirée pour que le match, au moment où il est terminé, on puisse avoir peut-être le regard tourné vers la cérémonie du Ballon d'Or? C'est une possibilité.
Quand tu parles de terrain d'entente, si l'OM est entre guillemets dans ses droits,
a priori, dans l'application du règlement, en tout cas.
Si le PSG ne veut pas, il n'y aura pas de match. Enfin, demain en tout cas.
Ah non, mais
on peut les forcer entre guillemets.
Non mais c'est pas au Paris Saint-Germain de choisir. Soyons clairs, c'est à la Ligue de trancher. Après, est-ce qu'il y a des pressions en coulisses? Très probablement.
Ça
n'existe pas. Du côté de l'OM, je peux vous confirmer qu'on suit ce dossier avec énormément d'attention, et que en gros le discours c'est de se dire si jamais le match n'était pas reporté à demain, et si possible demain soir par respect pour les supporters, en gros on comprendrait qui gouverne dans le foot français.
Il n'y a pas énormément non plus.
On serait à l'aube d'une polémique, Seb, là-dessus.
Pour les autres matchs, parce qu'il y a la Ligue des Champions, il y a les semaines internationales, il y a la Coupe intercontinentale, si je ne me trompe pas, avant Noël.
Il y a Marseille qui joue vendredi à Strasbourg, d'ailleurs. Marseille estime que la fenêtre, c'est demain. Alors évidemment, Ballon d'Or, les blessés côté parisien, on imagine qu'en coulisses, il y a des désaccords, mais quand un règlement stipule quelque chose du côté de la Ligue, on a le sentiment que on est conscient qu'il n'y aura pas d'autre choix que de le reporter à demain, et si possible pour le coup le reporter, annoncer ce report de manière assez rapide, les supporters ont aussi besoin de s'organiser. C'est aussi en ce sens que la décision est très attendue.
On sait quand est-ce qu'elle doit intervenir, justement, cette décision?
C'est cet après-midi. Je pense que ça ne tardera pas. La question est de savoir si le Paris Saint-Germain va rester sur Marseille et Marignane, ou va décider de retourner sur Paris pour revenir demain, ou éventuellement mettre la pression en disant nous on est de retour. On n'a pas encore cette information de savoir si le PSG, si la délégation parisienne retournera sur Paris. Mais en tout cas, il est très probable qu'on ait une décision dans les heures qui viennent. Il y avait une tendance ces dernières minutes là, c'était qu'on travaillait sur un match demain soir. aux alentours de 19h-20h. 19h, ça permettrait de contenter aussi la diffusion de la cérémonie du Ballon d'Or. On verra si cela se confirme. Je pense que 19h, même si c'est un petit peu tôt, les supporters marseillais comprendront qu'il faut peut-être un petit peu adapter la situation et éventuellement l'avancer. Mais c'est ce sur quoi on travaille. Est-ce que ce sera confirmé ? On le saura dans les minutes ou les heures qui viennent.
Ok. Merci beaucoup, Flo. Si tu as la moindre info, évidemment, tu nous tiens au courant sur RMC. On vous donnera les toutes dernières infos pour la tenue de cet OM PSG. Et puis, on aura aussi Arthur Perrault tout à l'heure pour savoir comment on voit les choses du côté parisien. Merci beaucoup, Flo.
Merci.
À tout à l'heure. Le point entre le PFC et Strasbourg, Arnaud Valado à Jean Brun.
14 minutes de jouer, 0-0. Pour l'instant, on va dire que ça s'observe malgré les grosses parades de Mike Penders, le gardien strasbourgeois, en tout début de rencontre. On a vu une grosse erreur de Mustapha Embol, défenseur du Paris FC, et Panicelli n'a pas pu en profiter. Grosse erreur. Il a perdu le ballon à 40 mètres de sa cage alors qu'il n'y avait personne derrière, mais on n'a pas su bien combiner.
En vitesse, si c'est Emega, je suis pas sûr que.
Oui, il va au bout.
Ça va pas du tout.
Panicelli, voilà, c'est un peu différent. Il a essayé de trouver Paez sur qui était venu faire l'appel, l'équatorien, mais on n'a pas réussi à combiner. On va dire, allez, si on devait donner avantage au pont, on dirait les premiers rounds au Paris FC après 14 minutes de jouer, mais 0-0 à Jean Brun.
Allez, 15h13 sur RMC. On marque une pause et puis on revient juste après avec Sébastien Piocelle pour la suite de ce PFC Strasbourg. On vous donnera aussi l'un des toutes dernières infos après le report d'OM PSG. Quand est-ce que le match va se jouer? Est-ce que ce sera demain? Qu'est-ce qu'on en pense aussi du côté parisien avec la cérémonie du Ballon d'Or qui arrive? Les infos, c'est évidemment sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
15h16 sur RMC. On est de retour dans l'Intégral Sport. On suit toujours ce PFC Strasbourg 0-0 entre les deux équipes. Mais d'abord, l'info vient de tomber. Et on est avec Flo Germain à Marseille. Ça y est, cet OM PSG est reporté. Ce sera demain 20h, Flo, hein, c'est ça?
Exactement. Demain 20h, c'est ce qu'on disait. Il y avait la possibilité que ce soit 19h, légèrement avant, par rapport à la cérémonie du Ballon d'Or. Mais c'est acté par le diffuseur. L'OM était fortement d'accord pour cet horaire 20h, donc demain lundi 22 septembre le match OM-PSG. On verra si en coulisses il y a des polémiques, des tensions ou quoi que ce soit, mais en tout cas le diffuseur et la Ligue ont parlé. Match OM-PSG demain lundi à 20h au Vélodrome.
Ouais, Seb, pour toi c'est la bonne décision. On rappelle qu'évidemment pour le Paris Saint-Germain c'est la problématique de la cérémonie du Ballon d'Or à laquelle évidemment les Parisiens sont concernés, et notamment Ousmane Dembélé qui, on le rappelle, de toute façon est blessé, donc ne jouera pas le match face à l'OM.
On peut faire la cérémonie au Vélodrome, hein, ouais, éventuellement du Ballon d'Or.
Alors là, je pense que tu vas perdre tout le monde dans le stade. Mais...
Exactement, ou au Parc Chanot à côté, là où il y a la foire de Marseille qui commence à s'installer.
Bon, pourquoi pas,
peut-être pas une bonne idée en termes de sécurité, mais
je suis pas sûr.
C'était évidemment sûr. Une boutade, mais voilà, le match aura lieu demain à 20h, ça c'est sûr.
Ah, évidemment, Seb, mais ça pose évidemment la question, parce que ça veut dire que toute la délégation parisienne ne sera pas présente à la cérémonie de ce Ballon d'Or, qui pourrait consacrer enfin un joueur parisien, enfin aussi un joueur d'un club français. Pour toi, c'est la bonne décision?
Déjà, c'est le règlement. Bien sûr qu'il y a cette cérémonie, mais je pense que sportivement, ça va dans le sens aussi du PSG, puisqu'on parlait du calendrier qui est plein jusqu'à Noël, entre la Ligue des Champions et la Coupe Intercontinentale. Bien sûr que même si on connaît pas encore l'Euro élu, c'est vrai que Ousmane Dembélé a des chances d'être ce Ballon d'Or, et que certainement que toute la délégation préférerait être à ses côtés. Mais il me semble que, mis à part peut-être d'avancer le match à 19h, mis à part l'horaire, mais sinon oui, ça me semble être la meilleure solution pour tout le monde.
Ouais, mais c'est sûr qu'avancer le match à 19h, ça pose toutes les questions de sécurité aussi par la préfecture, parce que nous, Flo, on pense évidemment sportif, mais il y a évidemment la préfecture qui est derrière au niveau de Marseille. On n'organise pas un match au Vélodrome comme ça dans n'importe quelle condition.
Exactement. Non, mais c'est par rapport au flux de supporters. Mais vous savez que tu as raison, Flora, de dire que parfois nous fixe, on se concentre sur l'aspect sportif, mais par exemple quand une décision, là c'est tout autre chose, hein, mais quand une décision d'arrêter une rencontre est prise, souvent la réflexion elle va au-delà du sportif, c'est de savoir est-ce que la sortie des supporters, l'acheminement des supporters va se passer dans des bonnes conditions. Et là, c'est un cas différent, mais il s'agit quand même d'avoir en tête que y a beaucoup de gens qui prennent la voiture. On est sur un retour de week-end, la décision, la sagesse était de reporter la rencontre. Et ensuite, effectivement, par rapport au règlement, par rapport au fait que il était logique a priori de privilégier un match le soir, bon, rapidement. Il faut penser aussi aux diffuseurs, hein. Il y a quand même plus de possibilités de matchs tranquillement regardés le soir à 20h, même 19h ou 21h, peu importe. Mais en tout cas, 20h, c'est acté. Ça semble être un horaire qui correspond et qui contente pas mal de monde.
Merci beaucoup Flo, on viendra vers toi évidemment toute l'après-midi sur RMC pour les dernières infos. S'il y en a d'autres qui tournent, notamment les réactions aussi côté marseillais, on aura évidemment Arthur Perrault aussi pour les réactions côté parisien. C'est ce qui nous intéresse aussi maintenant, Seb, de savoir comment on prend ça dans le clan du PSG. On va aller tout de suite à Vincennes parce que c'est l'arrivée du quintet avec Mathieu Zaccanini. Salut Mathieu. Pas tout de suite.
Max, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier.
Est-ce que Mathieu Zaccanini est là ? Non. Eh bien, on va aller tout de suite à Jambouin. On va retrouver Arnaud Valadon. Arnaud, comment ça se passe dans
ce... Je suis
pas là. Ah bah si, s'il te plaît. Il faut au moins que tu sois là. Ah bah tiens, on me dit que Mathieu est là. On revient te voir après, Arnaud. Salut Mathieu, pour l'arrivée du quintet.
C'est pour l'arrivée du quintet.
T'es où, Mathieu ?
Je suis là, je suis à Vincennes. Et c'est le numéro 15, Jasmine, qui s'impose très très facilement aux dépens du numéro 14 finalement, qui est très en retrait. Hein. C'était journal intime. Antoine Marion est assez confiant. Mais en tout cas, quel récital du favori, le numéro 15, Jasmine, qui s'est imposé de plusieurs longueurs. Il a longtemps patienté à l'arrière-garde et finalement il a progressivement décidé de quitter les derniers rangs dans la montée et il s'est envolé. Hein. Il a gagné de plusieurs longueurs aux dépens du numéro 14. La troisième place va revenir certainement au numéro 6, Jasmine Vivancière. La quatrième place sera pour le numéro 8, hein, Joker Castillevan. Et enfin, sera le numéro 5, Géry Delerde, qui va compléter le quintet plus du jour. Donc, c'est une arrivée de favori d'outsider. En tout cas, pas de problème pour le numéro 15 qui s'est imposé comme à la parade. Jasmine, deuxième place pour le numéro 14, hein, Journal Intime, troisième pour le numéro 6. Toujours photographie quand même pour la troisième place entre le numéro 5 et le numéro 8, même s'il y a une préférence pour le numéro 8, Joker Castillevan. Et enfin, c'est ce que je disais, c'est le numéro 6 qui s'est classé 3ème et 8-5 photographie pour la 4ème et 5ème place. Je vais y arriver, 15, 14, 6 et 8 et 5. Et je reviendrai donc à 16h pour vous donner l'arrivée, les rapports définitifs de cette compétition. À tout à l'heure.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup Mathieu, journal intime. On adore évidemment les noms des des chevaux. Arnaud Valadon, ça y est, on te retrouve enfin. Je vous rappelle juste l'info du jour, évidemment, c'est que le choc entre l'OM et le PSG est reporté à demain 20h pour le coup d'envoi. Coup d'envoi qui sera donc pendant la cérémonie du Ballon d'Or. Alors la cérémonie, on rappelle, ça commence à tapis rouge 19h30. La cérémonie commence à 21h a priori. La remise du Ballon d'Or est vraiment en tout dernier de la cérémonie, donc 22h30 à peu près.
Ils vont essayer de s'adapter au mieux, je pense.
Normalement, oui. Après, je doute que la délégation parisienne puisse faire Paris-Marseille en une demi-heure. Tu vois, j'ai quelques doutes quand même. Arnaud Valadon, en attendant un autre club parisien en ce moment à Jambouin, ce PFC Strasbourg.
0-0, la 23e. Adama Camara bousculé dans la surface de réparation pour les Parisiens. C'est lui qui a frappé tout à l'heure, mais frappe un peu trop écrasé, qui a fui le cadre de Mike Penders. Ouais, c'est score plutôt logique parce que on assiste à une rencontre. Je sais pas ce que t'en penses, Seb, mais plutôt pauvre en occasion.
Ouais, c'est, voilà.
Ça a très bien démarré, mais là, c'est vrai que d'un coup.
Ouais, c'est assez équilibré. Chaque équipe. Essaye par moment, notamment par là, on l'a vu avec Camara, par leur milieu de terrain d'arriver par derrière pour essayer de rentrer dans la surface de réparation. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'occasion vraiment nette à part cette triple tentative là en tout début de rencontre.
On sent les Parisiens un peu plus mordants, peut-être, que les Strasbourgeois.
Ouais, Traoré, voilà, c'est pareil quand tu as des joueurs d'expérience qui rentrent dans ce groupe là. Avec certains joueurs qui étaient déjà là la saison dernière.
Attention, Barco qui a décalé Paez, le centre très fort, personne pour reprendre, ça va aller pour les Strasbourgeois de l'autre côté sur Diego Moreira sur le côté droit.
Il aurait pu rentrer dans la surface un peu plus Paez là, même si son centre était intéressant.
Exactement, il n'était pas attaqué, ça avait bien combiné avec Valentin Barco, l'Argentin. Et voilà, Strasbourg, on voit Liam Rosenior un petit peu agacé sur le banc de touche. Là, il vient d'applaudir parce que c'est vrai que son équipe a globalement du mal à conserver le ballon. Ce sont les Parisiens qui, comme je vous le disais, sont un peu plus mordants, un peu plus tranchants, mais qui, pour l'instant, se sont heurtés au mur. Mike Penders dans la cage strasbourgeoise. 0-0, la 25e à Jambouin.
C'est difficile à se décanter un petit peu ce match, Seb. C'est pourquoi, à ton avis, on a
c'est
du mal
deux
à trouver
équipes en forme, deux équipes assez joueuses qui ont l'habitude d'avoir le ballon. Pour l'instant, c'est le PFC qui a un peu plus de maîtrise et Strasbourg à la rigueur qui qui essaie de procéder un peu en compte, mais en partant d'assez loin. Ouais, c'est deux équipes qui sont bien en place, donc il y a très peu d'espace. Pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est l'aspect défensif et les défenses qui prennent le dessus.
Ça, c'est pas pour nous plaire. Allez, peut-être là sur cette action, les Strasbourgeois, Arnaud.
Allez, sur le côté droit avec Diego Moreira, il est face à Sangui, le centre entre les jambes, c'est renvoyé par Mustapha Embo. Sangui qui peut essayer de se projeter en contre, mais il est trop gourmand. Le joueur arrivé du stade de Reims, il va tout de suite perdre le ballon alors qu'il est vraiment, on pouvait mieux faire sur cette transition pour les joueurs du PFC. Et là, on sent, c'est depuis que tu es venu me voir, Flora, je sais pas pourquoi, les Strasbourgeois sont clairement commencent à être dans la maîtrise. Ouais. Attention, Panicelli qui va essayer de se jouer d'Embo, finalement le ballon un peu trop profond. Et Obeden Kambadio, le gardien du Paris FC, qui va intercepter cette balle dans sa surface de réparation. Ouais, et plus haut, clairement, on sent que voilà, la ligne des défenseurs alsaciens, Seb, est clairement à la ligne médiane. On veut moins subir du côté de Liam Rosenior. Ben Chilwell, justement, l'ancien joueur de Chelsea, sur le côté gauche. Ça combine avec Paez, c'est bien fait pour Barco. Il y a Godot qui va demander le ballon sur le côté gauche. C'est un petit peu ralenti, mais il va quand même l'avoir. L'anglais Godot qui va être proche de l'angle de la surface de réparation sur le côté gauche. Il y a Pierre Lespelou qui vient le chasser. Il va devoir rejouer derrière sur Chilwell. On sent, voilà, que les Strasbourgeois sont en train de mettre un peu plus de spontanéité,
Ça pourrait être intéressant pour la vitesse, notamment d'un Moses Simon, qu'on voit très peu depuis le début du match, et que les Strasbourgeois sont un peu plus haut justement, et que les joueurs offensifs à l'image de Simon essaient de demander les ballons un peu dans la profondeur. Donc ça peut être aussi une possibilité pour les Parisiens.
Allez, le temps, le score, Arnaud.
0-0, on joue depuis 27 minutes à Jambon entre le Paris FC et Strasbourg. Attention, Diego Moreira qui va pouvoir peut-être centrer. Il est bon, ce centre pour Paez, la tête et l'ouverture du score pour Strasbourg. Voilà, il y avait clairement du mieux depuis quelques minutes. Et là, les défenseurs centraux du Paris FC étaient en infériorité numérique. Paez s'est glissé entre les deux centraux justement pour cette tête croisée. L'ouverture du score à Jambon pour le Racing Club de Strasbourg après 27 minutes de jouer. 1-0.
Comme quoi, tu vois, Seb, sur quelques actions tranchantes, les Strasbourgeois arrivent à être...
Et j'allais dire que Paez était très intéressant. Alors, plus, il marque de la tête, c'est encore un autre registre. Mais,
Il y a une belle combinaison.
Voilà, le mouvement est très, très bon avec Moreira, notamment, qui lui est gaucher, se remet sur son pied gauche. Il a vraiment le temps, justement,
C'est une belle galette. Ouais, hein.
Et derrière, la tête de Paez, qui n'est pas forcément immense, mais en tout cas, elle est hyper bien placée. Ça met hors de portée, et pourtant ils n'étaient pas en supériorité numérique, les Strasbourgeois, dans la surface, mais superbe centre de Moreira.
Ça a peut-être décompté un petit peu ce match. 1-0 donc pour les Strasbourgeois face au Paris FC à Jambouin. L'info du jour, vous le savez, c'est que le choc qui devait avoir lieu ce soir entre l'OM et le PSG est reporté à demain 20h. L'info aussi RMC Sport qu'on peut vous donner à l'instant grâce à Fabrice Hawkins, c'est que les Parisiens vont rentrer à Paris justement cet après-midi. Ça aussi c'est surprenant, Seb. On va en parler dans quelques instants avec Arthur Perrault qui sera avec nous. Ils vont rentrer à Paris avant de revenir donc a priori demain à Marseille. Voilà, c'est peut-être qu'ils n'ont pas envie de subir l'orage.
A priori,
ce
c'est
soir.
Sûr qu'ils vont revenir.
Je sais pas. Non, mais si, évidemment, c'est sûr. On vous donne les toutes dernières infos dans quelques instants avec Arthur Perrault. On est aussi au Rwanda cet après-midi pour les championnats du monde de cyclisme. Il y a le contre-la-montre aujourd'hui avec évidemment nos Français et évidemment Paul Sextas qu'on attend, la petite pépite tricolore. Et on suit tout ça avec Léna Marjac. Salut Léna.
Salut Flora, salut tout le monde.
Est-ce qu'il est parti justement, Paul Sextas?
Oui, Paul Sextas est bien sur ce parcours. Court un peu plus de 40 km aujourd'hui dans les rues de Kigali au Rwanda. Paul Sextas qui va approcher d'ici quelques instants du premier point de passage pour avoir un petit peu son temps de référence. Paul Sextas, la jeune pépite, tu l'as dit, 18 ans seulement, qui découvre aussi les championnats du monde senior. C'est sa première sélection. Paul Sextas est actuellement dans la première difficulté de ce parcours, un parcours très vallonné qui fait vraiment mal aux jambes. La côte de Nyanza, 2,4 km d'ascension à 6% de moyenne. Donc voilà, Paul Sextas est dans cette côte au moment où je vous parle. Donc on va attendre son premier point de passage pour avoir un temps de référence. Mais en tout cas, il n'y a pas que lui à suivre aussi du côté des Français, parce qu'on a Paul Sextas, mais aussi on a Bruno Armirail qui lui prendra le départ de ce chrono à 15h52 précisément. Et puis il y a les deux monstres aussi qu'on attend. C'est Remco Evenepoel, le double champion du monde en titre du chrono, face à Tadej Pogacar, le Slovène. C'est son anniversaire aujourd'hui au Slovène. slovène. Donc je pense qu'il va avoir envie de performer sur ces routes africaines de Kigali. Ce sont les premiers championnats du monde sur le territoire africain. Donc on va suivre tout ça avec intérêt et surtout en espérant que nos Français brillent aujourd'hui, notamment Paul Sexas.
Merci beaucoup Léna. On suit aussi ce week-end la rentrée du basket français. C'est la Super Coupe de la LNB. La première édition avant la finale tout à l'heure. On a le droit au match pour la troisième place entre Boulazac et Paris. Et on suit tout ça avec Morgane Maury. Salut Morgane.
Bonjour à tous, bonjour Flora.
C'est parti, ça y est, dans ce match pour la troisième place.
Oui, on s'était quitté tout à l'heure dans le Stephen Brunch avec un score en faveur de Paris, 54-40. Le Paris, le champion de France, avait pris ses distances. Mais la renversement de situation, c'est Boulazac qui est devant le vainqueur de l'élite de Le Petit Club de Dordogne. 80 pour Boulazac, 70 pour Paris. Au retour des vestiaires, ils ont mis une série de 11 points. Et là, ils sont sur un 10-0 infligé aux Parisiens. Boulazac est très chaud et va peut-être s'offrir le champion de France dans ce match de rentrée du basket. Voilà, ils terminent leur pré-saison, on va dire, leur vraie rentrée à Boulazac. Ce sera un match important, la première journée de Betclic Elite la semaine prochaine contre Saint-Quentin. Paris a changé de coach, a changé beaucoup de joueurs. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail. Il reste 7 minutes et 39 secondes dans cette partie. Match pour la troisième place en Supercoupe. Boulazac 80, Paris 70 et la finale à 17h, Le Mans-Monaco.
Merci beaucoup Morgane. 15h31 sur RMC. Une pause et on revient juste après. On sera de retour à Jambouin pour ce PFC Strasbourg. 1-0 pour les Strasbourgeois. Et puis on vous donnera évidemment les dernières infos après le report de cet OM-PSG demain à 20h. Arthur Perrault va être avec nous dans quelques instants pour savoir comment on vit les choses côté parisien. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
15h33 sur RMC. On est de retour dans l'Intégral Sport avec Sébastien Piocel. On va vous parler du report d'OM PSG évidemment dans quelques instants. On va faire un détour par Jambouin. Le score en Ligue 1, Arnaud Valadon, entre le PFC et Strasbourg.
À 11 minutes de la mi-temps, un but à 0 pour Strasbourg. Le but de Paes, attention, occasion peut-être pour le PFC, il y aura un corner. 1-0 pour Strasbourg.
On suit évidemment tout ça de loin, s'il se passe quoi que ce soit, Arnaud. Évidemment, tu viens nous voir, mais l'info du jour, c'est le report de cette affiche entre l'OM et le PSG qui devait avoir lieu ce soir au Vélodrome. Match reporté demain à 20h, qui pose évidemment des questions, puisque ce sera pendant la cérémonie du Ballon d'Or, où a priori, les Parisiens sont concernés, évidemment. On va faire le point justement avec Arthur Perrault pour savoir ce qu'on en pense côté parisien. Salut Arthur.
Salut Flora, bonsoir à toutes et à tous.
Oh, l'après-midi va être chargé, Arthur, encore plus pour toi qu'elle n'aurait dû l'être habituellement. On a eu Flo Germain tout à l'heure justement qui nous a expliqué les points du règlement importants avec cette obligation d'un report du match le lendemain de la rencontre initiale. Comment on le prend justement côté parisien, ce report à 20h?
C'est encore très difficile de pouvoir ressortir un sentiment général du côté du club parisien. D'abord, la première chose, elle est factuelle, c'est que dans maintenant 26 minutes, le groupe parisien va redécoller de l'aéroport de Marignane avec le même avion qui les a déposés il y a de cela 2h30 ici autour de Marseille. Les joueurs ont donc patienté, tout comme le staff à l'hôtel. Pour ne rien vous cacher, voilà, tout le monde était un petit peu dans le flou puisque les discussions ont été menées avec la Ligue de football professionnel et l'Olympique de Marseille par le président parisien Nasser El Khelaifi. Et donc voilà, décision a été prise de repartir demain matin de Paris pour refaire le même trajet en direction de Marseille. Ça, c'est la première information. Et la deuxième chose, et Flo a commencé à vous en parler tout à l'heure, les discussions ont quand même été très houleuses, voilà, entre les différents camps, entre le Paris Saint-Germain, entre Marseille et donc la Ligue de football professionnel qui est accessoirement diffuseur de cette rencontre. Voilà, ça nous donne déjà une petite idée de comment tout ça s'est passé en coulisses ces dernières heures.
Ouais, ça promet. Est-ce que tu comprends ça, Seb? Toi, c'était joueur effectivement du Paris Saint-Germain. Ça peut être long, là, soirée à Marseille sous l'orage à rester jusqu'à demain.
Ouais, c'est très, enfin ça peut être long. En plus de ça, bon, il fait forcément la météo ne permet pas peut-être même pour eux de trop sortir. Donc à la rigueur, c'est peut-être même si on va mettre l'empreinte carbone de côté.
Ah bah là, on le met de côté là, clairement.
Mais de rentrer à la maison, peut-être que là, par rapport à l'heure aussi, ils feront une sorte de petit décrassage en rentrant sur Paris parce qu'ils auront peut-être pas le temps demain matin.
Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, Arthur. Les joueurs rentrent rapidement, finalement peu de temps après finalement l'annonce du report du match. Pourquoi est-ce que chacun va rentrer chez soi en arrivant? Qu'est-ce qui est prévu?
Exactement le même programme que d'habitude. En fait, les joueurs vont en effet repartir chez eux. Voilà, profiter d'une nuit au calme. Et ensuite, il y aura de nouveau un rendez-vous de prévu demain matin à 9h30 au campus PSG. Et comme ce matin, les joueurs prendront la direction de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avant de décoller pour Marseille. Voilà, Paris qui va vraiment reprendre sa procédure habituelle de jour de match suite à ce report.
Tu restes avec nous, évidemment, Arthur. On a Laurent, supporter marseillais, qui est avec nous au 32-16. Salut, Laurent.
Bonjour.
Alors, toi, tu étais en route pour le Vélodrome et du coup, tu fais demi-tour. Raconte-nous.
Oui. Oui, bah, j'ai pris la route à. Bah, on a attendu le dernier moment parce qu'au début, on avait entendu qu'il y avait peut-être une annonce à partir de 14h. Donc, moi, en fait, je suis à 400 km de Marseille. Je suis au-dessus de Lyon.
Oui.
Donc, on a attendu vraiment le tout dernier moment. Et on a pris quand même l'autoroute. Et au niveau de Villefranche-sur-Saône, on a été sur X. Et c'est là qu'on a vu la dépêche tomber. Donc du coup, on a fait demi-tour.
Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu reviens demain pour aller voir le match? Comment tu fais?
En fait, j'avais pris mon lundi.
Ah, bah t'as bien fait.
mais du coup, j'avais pris mon lundi pour justement récupérer du trajet.
Ouais.
Et là, je suis à mon compte, donc je suis en train de modifier ma journée de mardi et essayer de la passer à lundi. Et retourner au stade demain soir.
Arthur, ouais.
Et Flora, alors je viens d'arriver devant le stade Vélodrome, pour tout vous dire. Je suis sur le parvis où d'habitude les supporters sont massés avant chaque rencontre. Il y en a déjà qui sont là. Il y en a qui avaient prévu, comme toi, de venir au stade, qui sont autour en train de patienter.
Très bien, quand même.
Mais je pense qu'ils sont assez grands pour s'en être rendu compte. Mais
moi, j'ai des copains qui viennent de Bretagne. Ils y sont depuis vendredi, donc ils ont pris le week-end complet.
Aïe.
Ils ont pris leur lundi, donc ils reprennent le TGV demain matin. Oh. Et là, c'est mon pote a fait les comptes. C'est pratiquement 600 euros de perdu.
Ah bah oui, et puis en plus du coup ils vont pas assister au match.
Ils vont pas voir le match. Aïe. Donc on est une fois de plus, c'est ce que j'avais dit ce matin. On est une fois de plus devant un pays qui n'est pas un pays de football parce qu'on n'est pas capable de prévoir. C'est une catastrophe. Hier, j'ai regardé le match Lille-Lens. Il y a déjà des photos qui circulent avec un énorme éclair. Il est tombé des murs d'eau. Mm. Le match a eu lieu. Et demain, le stade, qui nous dit que le stade est plein demain?
A priori, il y a plein de personnes qui vont pas pouvoir aller au match.
Et quelle est la publicité pour Ligue 1 Plus de diffuser un OM-PSG avec des tribunes, allez, on va pas dire vides, mais avec le stade pas plein?
Je pense que pour répondre à cette question-là, et d'ailleurs c'était dans les discussions qu'il y a eu entre le Paris Saint-Germain, Marseille et la Ligue, c'est que notamment LFP Média voulait absolument que ce soit à 20h. Parce qu'ils estiment que c'est le moment de la journée où on fait les meilleures audiences, ce qui paraît un petit peu logique. Mais voilà, en gros, pour limiter la casse, LFP Média et Ligue 1 Plus ont insisté pour que ce soit 20h demain.
Oui.
Même si le jour, évidemment, pose problème. On est d'accord.
Le jour pose problème. Et évidemment, en 20h, tu as plus de chances d'avoir ton stade plein qu'à 19 ou 18h, a priori. Déjà, tous ceux qui sont sur place à Marseille, ils ont boulot quand même.
Oui, mais après, c'est vrai que tout à l'heure, Flo le disait aussi, que notamment au Vélodrome, alors là, encore plus sur un classique, mais il y a beaucoup de gens qui viennent vraiment de loin, qui prévoient leur week-end. Donc là, on sait que le billet, potentiellement... Il pourra peut-être le revendre, mais par contre tout ce qui est hôtel.
Laurent, dis-nous au niveau des billets là.
Alors l'OM vient de nous communiquer que les mêmes billets seront valables demain. Mm-hmm. Donc il faudra pas réimprimer parce que là en plus ce qui avait été mis en place sur ces matchs-là à Marseille c'était des e-billets. Alors que d'habitude c'est toujours la carte d'abonnement. Là pour ces gros matchs et les matchs de Ligue des Champions c'était des e-billets. Donc du coup là ils nous ont dit que les billets allaient être valables demain soir. Mm-hmm. Mais c'est tous les gens, parce que dans les virages, moi je suis dans les virages, on va dire qu'il y a pratiquement 20% de supporters qui sont issus de sections, donc section Nord, section Bretagne, etc. Et ces gens-là seront pas, ces gens-là seront pas, on leur enlève l'affiche. L'affiche de leur saison, parce qu'il va tomber un peu d'eau. et qu'on n'est pas capable de le prévoir.
Ouais, bah, ça, après, ça, c'est quand même à vérifier. Toi, c'est quoi ta solution? Parce que au-delà de ça, c'est aussi ce qu'ils disaient tout à l'heure, Flo, c'est aussi la sécurité autour. Oui. C'est pas forcément que le match en lui-même.
Le problème,
c'est qu'ils ont un flux massif de supporters.
Le problème, c'est qu'ils ont déjà annulé. Alors, ils ont annulé la rentrée scolaire il y a 15 jours. Ouais. Il se trouve qu'il n'est pas tombé ce qui avait été prévu.
Ouais, c'était du vent, c'était du vent.
Là, j'ose espérer, mais à mon avis, le préfet, il doit faire la danse de la pluie. Parce que si jamais il ne tombe pas ce qu'il a annoncé, il va vraiment passer pour un guignol.
Ça tombe déjà un petit peu là, hein, pour vous raconter.
Arthur,
sur le parvis,
mets-toi à l'abri quand même.
Je suis à l'abri, mais pour avoir pris le train et être arrivé il y a de cela un quart d'heure, à Avignon, il y a de cela aller une petite heure, c'était l'orage, la tempête. Hein, donc
ça va arriver.
Ici,
oui.
Voilà, exactement.
Ça va arriver dans très peu de temps.
Mais moi, ma question, c'est Arthur, tu rentres sur Paris et tu repars demain ou pas?
Tu suis alors, pas les Parisiens.
Mais alors, comme tu veux tout savoir, mon cher Seb, j'étais accrédité pour le Ballon d'Or demain soir.
Aïe,
et finalement, ça ne sera pas possible. Donc, je reste pour ce classique ici.
T'as choisi voilà. Ton camp, en fait. C'est ça.
C'est toujours mieux.
On va rappeler peut-être une info importante parce que tu évoquais éventuellement, Seb, la revente de billets. Cet OM-PSG, ça fait partie des matchs avec des billets nominatifs.
Ah oui.
Donc ça complique aussi la revente pour ceux qui ont acheté leurs billets qui sont à leur nom et qui peuvent pas a priori donc revendre leurs billets comme ça. Donc on va voir ce que la Ligue aussi va faire en contrepartie pour rembourser les personnes qui ne peuvent pas aller assister au match. Mais effectivement ça pose aussi quelques problèmes d'organisation. On va remercier Laurent d'avoir été avec nous au 32-16. Merci Laurent, sois prudent sur la route et pour arriver à Marseille aussi demain. Merci à toi Laurent. Si vous êtes d'autres supporters marseillais d'ailleurs ou parisiens au 32-16, venez à l'antenne avec nous dans l'Intégral Sport pour discuter justement et savoir ce que vous pensez de ce report. On vous rappelle donc au MPSG, c'est demain soir à 20h. Arthur, dès que tu as des infos évidemment côté parisien, parce qu'on a envie de savoir comment ils vont faire du coup pour la cérémonie du Ballon d'Or, ça veut dire quoi, qu'il n'y aura aucune délégation parisienne lors de la cérémonie?
Alors justement, la question se pose et Paris est en train de décider tout cela en coulisses. J'ai posé la question il y a de ça quelques minutes, Flora. Ce qu'on savait, c'est que le président Nasser Al-Khelaïfi devait bien être présent ce soir au stade Vélodrome, ensuite enchaîné avec la cérémonie du Ballon d'Or. Donc voilà, une question va se poser du côté du Paris Saint-Germain. Pour cela, pour l'instant, c'est pas défini clairement. Voilà.
Bon, tu restes pas loin, évidemment, Arthur. Dès qu'on a besoin de toi, dès que tu as une info, t'hésites pas, tu nous dis. Et évidemment, on a envie de savoir ce qui va se passer aussi côté parisien. Et reste à l'abri, surtout. Merci, Arthur. Allez, la fin de la première période en Ligue 1 entre le PFC et Strasbourg. Arnaud Valadon, t'es pas sous la pluie aussi, Arnaud. C'est plus facile pour toi sur le soleil. Donc, c'est pour ça qu'on vient pas trop te voir. Mais en même temps, ça a l'air assez calme quand même dans ton match-là.
Oui, on aimerait quand même un déluge de buts, Flora. Un but à zéro pour Strasbourg. On va rentrer dans le temps additionnel. Oui, bah c'est une petite goutte. Hein.
Ouais.
Il reste 30 secondes avant l'entrée dans le temps additionnel de cette première mi-temps. 1-0 pour Strasbourg avec ce but de Paez à la 27e. Le Racing Club de Strasbourg qui ne cherche pas trop à enfoncer le clou. Hein. Ils sont en gestion.
Ils gâchent un peu, je trouve. Ils gâchent sur les quelques situations qu'ils ont.
De contre, ils peuvent mieux exploiter certains ballons parce que le Paris FC... pas mal de déchets techniques dans l'entrejeu. Il y aura 4 minutes supplémentaires avant la pause. On a vu une frappe d'Adama Camara passer au-dessus, une tête de Jebels qui a manqué de puissance. Attention justement, William Jebels lancé dans la surface de réparation sur le côté droit. Il a tenté de centrer pour Moses Simon qui a fait l'appel au deuxième poteau. Mais
quelle ouverture, voilà, c'est Kebal qui fait l'ouverture un peu extérieure.
C'est Kebal qui fait l'ouverture. Mike Penders qui n'a pas été lobé par ce centre piqué hein, quelque part de Jebels. Kebal élu meilleur joueur d'août hein, devant João Neves notamment, meilleur joueur d'août de Ligue 1 pour Ilan Kebal qui a fait de sacrées prestations notamment au Vélodrome pour le joueur qui a marqué 3 buts et une passe décisive depuis le début de la saison. Voilà, sur le côté droit il est servi, mais c'est vrai qu'il a du mal aussi à trouver ses coéquipiers, à avoir du mouvement un petit peu autour de lui. Le long dégagement qui va aller de goal à goal, c'était un dégagement de Penders qui essayait de trouver Panicelli, l'attaquant strasbourgeois, dans la profondeur, mais le dégagement était tellement profond que c'est allé directement dans les bras d'Encambadio. 4 minutes donc supplémentaires ici à Jean Bouin, 0 pour Strasbourg, le ballon sur le côté gauche pour Noah Sangui. Pour le Paris FC, il y a quand même, voilà, la possession de balle est pour le PFC, mais un petit peu stérile, hein, parce que les opportunités, elles manquent de précision dans la finition, hein, notamment Adama Camara qui a eu plusieurs tentatives le milieu de terrain. Le ballon est désormais sur le côté droit avec Maxime Lopez qui va essayer de rentrer intérieur, mais on est bien compact, hein, du côté de Strasbourg.
Ça change pas trop de rythme, hein, du côté du PFC là, c'est assez facile pour défendre du côté strasbourgeois.
C'est vraiment sur les côtés. Attention, Jebez à la surface. Oh, le manqué de Jebez. Quel bon centre de la part de Sangui. Et l'ancien monégasque, il ne doit pas sentir la bonne surface de pied et proposer la bonne surface de pied, puisqu'il ne fait qu'effleurer ce ballon qui était magnifiquement dosé de la part de Noah Sangui, un peu avant le point, un peu après le point de pénalty. Et j'ai l'impression que ce ballon vient plutôt sur le haut de sa cheville et il ne peut pas mettre le pied en opposition.
Il ne peut pas, il ne fait pas, parce que pour le coup, il fait la bonne course. Le centre, il est aussi magnifique dans la bonne surface. Et là, pour le coup, Jebels, il rentre pas dans le ballon. Je sais pas, il veut faire un petit extérieur du pied. Ça fait deux occasions pour lui, parce que tout à l'heure, la tête aussi, ouais, c'était un peu la même situation que Paez sur l'ouverture du score des Strasbourgeois, mais sauf que ça lui fait deux occasions
quand même de manquer. Ouais. Il est un peu moins à bout portant, entre guillemets, parce que Paez est carrément aux 5m50. Jebels qui avait débloqué son compteur but la semaine dernière à Brest lors de la victoire justement du Paris FC, la deuxième de suite après la première victoire à domicile, c'était contre Metz, 3-2. Là, c'est le deuxième match de la saison à domicile pour le Paris FC qui, vous le savez, partage ce terrain de Jean Bouin avec le Stade Français en rugby. La pelouse est très belle d'ailleurs. Et Jebels là-dessus, c'était le meilleur moment pour égaliser juste avant la pause. Mais il n'en est rien pour l'instant, encore un peu moins de 2 minutes dans le temps additionnel de cette première mi-temps. 1-0 pour Strasbourg. Valentine Barco qui va combiner avec Chilwell, qui a fait la remise en jeu avec Godot sur le côté gauche dans le camp parisien. Le ballon qui est toujours conservé par les Alsaciens. Barco qui est défait du ballon par Pierre Lespelou qui est venu couper cette trajectoire. Monsieur Le Texier qui discute un petit peu avec Kebal qui se plaint peut-être d'un contact non sifflé. On va laisser jouer cette touche à hauteur de la surface de réparation pour Ben Chilwell, le latéral gauche, ancien joueur de Chelsea, avec Paez qui a tenté un petit coup du sombrero là-dessus sur Pierre Lespelou, et c'est récupéré par Jebels qui est venu en position très reculée pour défendre, et on va pouvoir se relancer du côté du PFC pour pourquoi pas la dernière tentative de cette première mi-temps. Le ballon avec Maxime Lopez, Lopez qui a déserté son côté droit du milieu pour être à gauche désormais. Le ballon avec Moses Simon, mais qui a du mal à résister à la puissance du latéral droit strasbourgeois Ouattara, qui a gagné son duel. Désormais le ballon pour Doucouré, le défenseur, et on en restera là pour cette première mi-temps avec cet avantage au score pour le Racing Club de Strasbourg, les visiteurs. La tête de Paez sur le magnifique centre de Moreira, ça fait donc 1-0 pour le Racing sur la pelouse du Paris FC à la pause.
Merci beaucoup Arnaud, on te retrouve évidemment tout à l'heure pour la seconde période. Seb, mérité cet avantage à la pause pour les Strasbourgeois, c'était plutôt équilibré quand même.
Ouais, c'était plutôt équilibré, ils ont été peut-être un peu plus tranchants dans leur temps fort, mais Jebels a quand même eu deux opportunités, ouais, notamment la dernière là, qu'il n'arrive pas à mettre au fond. Je pense pas que ça restera sur ce score là.
Ouais, bah on va, tu sais quoi, on va avoir les prévisions, ouais, les paris sportifs tout de suite sur RMC.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Passe décisive de Sébastien Piocel pour Johan Bredov.
Tu manques le cadre. Tu manques le cadre en plus.
Salut Johan.
Salut Flora, salut Seb, salut à tous.
Alors quels sont les paris pour cette seconde période? Les cotes, là tu nous conseilles quoi?
Eh bien déjà je vous donne les cotes sèches. C'est 1,52 la victoire de Strasbourg qui mène 1-0 sur la pelouse du Paris FC qui est coté à 5,80. 3,25 le match nul. J'ai envie de croire au match nul quand même. J'ai envie de croire aux Parisiens qui perdent pas cette rencontre. Voilà, 3,25, je trouve ça intéressant. J'aime bien le but de Moses Simon qui est coté à 4,20. On parie quoi, Seb?
J'ai envie de parier comme toi.
C'est fou.
Ouais, je vois bien les Parisiens revenir au score et du coup un match nul. Et à la rigueur, je vais mettre Jebels, buteur. Il a eu deux opportunités. Peut-être que la troisième sera la bonne.
C'est le favori côté parisien. Il est coté à 3,60. Voilà des belles cotes pour cette seconde période.
Merci beaucoup, Johan. Tous les paris à retrouver sur le site rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
1-0 pour Strasbourg à la pause à Jean Bouin face au Paris FC. La seconde période, évidemment, dans quelques instants sur RMC. On suivait aussi le match pour la troisième place dans la Supercoupe de la LNB. C'est du basket, évidemment, et la victoire de Boulazac face à Paris, Morgan Maurice.
Oui, la place d'honneur pour le vainqueur de l'Elite 2 qui bat le champion de France Paris. Boulazac était mené de 14 points à la pause et à la fin du match, 16 points d'avance pour les Périgourdins. Victoire 96 à 80. Ils ont été aidés notamment par les 20 points du meneur Angelo Warner. Excellent match d'Angelo Warner pour Boulazac. La saison reprend, la saison de Betclic Elite reprend la semaine prochaine avec les premières rencontres. Il y a du boulot pour Francesco Tambellini, le nouveau coach du Paris Basketball, le champion de France, qui a perdu ses deux rencontres hier contre Le Mans et aujourd'hui contre Boulazac. Victoire de Boulazac 96 à 80 à partir de 17h. La finale entre Le Mans et Monaco.
Merci beaucoup Morgane. On va sur les routes du Rwanda aussi pour les championnats du monde du cyclisme avec le contre-la-montre. Aujourd'hui, Léna Marjac, comment s'en sort Paul Sixas?
Heureusement, il a perdu du temps entre le premier temps intermédiaire et le deuxième. Il pointe au quatrième temps provisoire avec 47 secondes de retard. Paul Sixas qui participe à ses premiers championnats du monde senior et son premier contre-la-montre aussi long, plus de 40 km. Et c'est vrai qu'entre au-delà de la moitié du parcours, on a vu un Paul Sixas un petit peu plus dans le dur parce qu'aujourd'hui, c'est un parcours aussi très vallonné, très très dur avec 4 passages compliqué avec notamment la côte de Nyanza, la côte de péage également et cette section pavée à la fin juste dans le finish et qui fait mal, qu'on voit les coureurs justement avoir du mal sur cette fin de parcours dans ce chrono des championnats du monde à Kigali au Rwanda. Donc Paul Sixas pour l'instant quatrième temps provisoire à un peu plus de la moitié du parcours. On va suivre ça avec intérêt et notre deuxième français Bruno Armirail vient de s'élancer à l'instant, donc lui aussi on va regarder ce qu'il va donner, puis après on aura les gros morceaux qui vont s'élancer, notamment Remco Evenepoel le Belge et Tadej Pogacar le Slovène. Mais pour l'instant Paul Sixas n'est pas sur le podium provisoire. On va voir s'il arrive à se rattraper sur les derniers kilomètres.
On croise les doigts. Merci beaucoup Léna. 15h53 sur RMC. L'Intégral Sport revient dans quelques instants avec évidemment la seconde période de PFC Strasbourg. 1-0 à la pause pour les Strasbourgeois. Jean Bois, on vous rappelle l'info du jour aussi, le champ contre l'OM et le PSG est reporté demain à 20h. Venez d'ailleurs parler avec nous dans la discussion WhatsApp 06 12 424 424 pour discuter avec nous sur RMC ou alors le 32-16 évidemment si vous voulez participer à l'antenne. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
16h02 sur RMC. Merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport. On est toujours avec Sébastien Piocel. Ça va Seb?
Ça va.
Ça va reprendre dans quelques instants du côté du Paris FC pour ce match face à Strasbourg. 1-0 à la pause pour les Strasbourgeois. La seconde période à venir dans quelques instants à Jean Bouin. On va en profiter pour vous rappeler l'info du jour. Évidemment, le match entre l'OM et le PSG est reporté demain à 20h. Ça pose évidemment beaucoup de questions. Les Parisiens vont rentrer à Paris. Ils doivent être déjà dans l'avion là pour retourner justement à Paris avant de revenir demain à Marseille. On va vous donner les toutes dernières infos. On est avec Flo Germain d'ailleurs du côté de Marseille. Salut Flo.
Salut à nouveau les amis, salut à tous. Salut
Flo. On a parlé tout à l'heure Flo un petit peu de la logistique côté parisien. Qu'est-ce qu'il en est côté OM? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu cet après-midi? Parce que vu les conditions climatiques, on ne pense pas à un entraînement non plus ce soir pour les Marseillais, non?
Non, exactement. Alors on se dirigeait, même si on va affiner tout cela, vers une mise au vert prolongée, puisque ce n'est pas une mise au vert d'une nuit supplémentaire qui va faire peur aux Marseillais, puisqu'ils prennent la direction de Rome après OM PSG pour être ensemble 3 ou 4 nuits supplémentaires. Puisqu'il faut rappeler cette petite anecdote, petite info, l'OM récidive avec le Ritiro et donc avait prévu de partir demain lundi à Rome pour un stage de cohésion un peu plus habituel dans le foot italien. Et donc Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi ont été vraiment satisfaits du rendu des stages à Malmort et plus récemment en fin de saison dernière à Rome. Donc a priori mise au vert ce soir à la Commanderie. Vous savez qu'à la Commanderie il y a les installations qu'il faut pour pouvoir dormir sur place et donc continuer à mieux se connaître. Parce que si on parle uniquement du côté sportif, l'OM, on le sait, a des recrues qui sont arrivées sur le tard et qui ont besoin de passer du temps ensemble. Donc je pense que ce moment, en plus on est bien quand on est sous la couette, qu'il y a un petit orage et qu'on se parle, on se raconte des histoires. Donc je pense que entre joueurs à la Commanderie, ils vont pouvoir en profiter. Mais j'imagine que c'est une mise au vert qui se profile.
Ouais, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est particulier quand même pour les joueurs aussi comme ça d'avoir ce contexte-là, se reconditionner en se disant que le match devait avoir lieu ce soir et que finalement non, ce sera que demain.
Ouais, bon après ils sont plus habitués, on va dire, à Marseille notamment depuis que De Zerbi est là. Ouais. C'est vrai que le Ritiro, moi j'ai joué un peu en Italie, c'est vraiment quelque chose où on va dire cette culture-là de se retrouver. Je vois les stages d'avant-saison par exemple en Italie, des fois tu pouvais te retrouver 2-3 semaines sans rentrer chez toi. Oui, et c'est ce qui est bien, c'est vrai que quand t'es nouveau joueur à Marseille, donc ça permet de mieux se connaître. Ça peut être un peu long. Par contre, par rapport au match de demain, bon, ça reste qu'une nuit supplémentaire. Ils sont conditionnés pour ça, comme disait Flo. Il y a les chambres qu'il faut à la commanderie, donc ça va pas trop leur changer, sachant que de toute façon derrière ils vont partir en Italie, donc ouais. Ça change pas grand chose pour eux, pour leur programme.
À Marseille quand même, Flo, comment on a pris l'annonce de ce report? J'imagine que c'est moins difficile pour les Marseillais que pour les Parisiens a priori.
Exactement, bon, les Marseillais souhaitaient que le règlement soit appliqué, à savoir un match reporté au lendemain, et si possible, important de le rappeler, au lendemain soir, à savoir donc lundi 20h maintenant que c'est acté, parce que du côté de l'OM on pense évidemment aux supporters marseillais qui seront soit au travail, soit habitent un petit peu loin de Marseille. On disait qu'il y a une grande partie des supporters qui n'habitent pas les Bouches-du-Rhône, donc faut prévoir le déplacement. Il y a aussi de jeunes supporters qui auront collège, lycée, université, tout ce que vous voulez, donc mettre un match à 17h ou 18h, ça aurait été un petit peu problématique en ce sens, hein. Là je parle vraiment de la vision olympienne, donc on est satisfait du côté des Marseillais de l'horaire qui a été choisi, parce que en plus il y avait un match quoi qu'il arrive le vendredi suivant à Strasbourg. Ensuite, la Ligue des Champions va reprendre ses droits. Donc, il y avait très peu de dates disponibles, si ce n'est peut-être plus tard, au mois de décembre. Donc, évidemment, par rapport à la situation du PSG qui a quelques blessés, vous comprenez que non seulement c'est le règlement, et en plus, Marseille avait plutôt intérêt à jouer ce match demain soir. Mais ce qui est important du côté de l'OM, c'est qu'on estime que le règlement devait être appliqué. Et c'est pour ça que, au moment où les tractations et les pressions étaient assez forte en coulisses, pour être très honnête, il y avait un peu d'agacement déjà côté marseillais, parce qu'on disait en gros, bon, ok, la cérémonie du Ballon d'Or c'est bien, symboliquement on comprend que le PSG veuille y assister, ou en tout cas est prévu certains joueurs donc ce lundi soir lors de la cérémonie, mais il y a un règlement, il y a d'abord une compétition à jouer, et il y a un match qui doit se dérouler, et ça c'est la priorité. Voilà le discours qui était tenu du côté de l'OM.
C'est vrai que le timing est quand même
particulier.
C'est le hasard, du calendrier, évidemment, hein. que ce match-là, à la base, déjà, devait se jouer la veille de la cérémonie du Ballon d'Or, et qu'elle se joue maintenant le jour même.
Non, mais ils sont satisfaits, c'est normal. Je trouve que voilà, on respecte le règlement. Il y aura des conditions pour jouer dès demain soir, en fait.
Après, de toute façon, vu le calendrier des deux équipes par la suite, valait mieux jouer ce match rapidement.
Complètement,
a priori.
Ça rejoue vendredi à ouais. Strasbourg, certainement qu'il y aura forcément. Un jour de moins à Rome, ouais. mais pour eux ça change pas énormément. Il y aura aussi un peu moins de récupération forcément entre les deux rencontres, sachant qu'à Strasbourg ça sera un match non plus pas évident pour les Olympiens.
J'espère juste qu'ils ont coché la petite case assurance, tu sais, quand tu réserves un hôtel comme ça de luxe en plein centre-ville de Rome, tu sais, tu dis non, j'ai pas besoin de l'assurance, mais... si tu la prends pas c'est pas bon.
Tu sais mais... qu'on la prend jamais cette assurance.
On la prend jamais, et puis là tu penses pas au match reporté. Mais bon, on pense que les Marseillais ont fait ce qu'il fallait. Ouais. Honnêtement, je pense que cet épisode va quand même ajouter un petit peu d'huile sur le feu dans les relations tendues entre dirigeants du PSG et dirigeants marseillais, et surtout en toile de fond, parfois la connexion qu'il peut y avoir avec la Ligue. Enfin, on taxe le Paris Saint-Germain d'avoir des relations, notamment Nasser Al-Khelaïfi, un petit peu trop étroites avec la direction de la Ligue. Bon, là, pour le coup, la LFP est restée droit dans ses bottes, oui. Et a pris la décision qu'indique le règlement. Parce que si ça avait été le contraire, on aurait eu vraiment des débats toute la soirée et une polémique qui aurait enflé. Là, les regards, ils se tournent plutôt vers le Paris Saint-Germain qui prend l'avion de retour, tu l'as dit, vers Paris. Quand vont-ils repartir? Avec quel groupe? Quel joueur? Tout ça, on va le suivre de très près. Mais en tout cas, s'il y avait eu un match reporté à une date ultérieure, très clairement, à Marseille, on l'aurait très très mal pris par rapport au fait qu'on aurait vu une connexion Ligue-PSG.
Franck Macourt doit assister au match ou pas?
J'ai pas eu cette info, je crois pas. En tout cas, il n'avait pas été annoncé. En général, on le sait 48 heures avant. Là, à moins qu'il y ait une petite surprise, mais je crois pas que le boss américain était prévu ce dimanche soir.
Merci beaucoup Flo, on te retrouvera évidemment toute l'après-midi sur RMC pour les dernières infos. On aura Arthur Perrault aussi tout à l'heure avec nous pour nous parler du ressenti côté parisien. Merci Flo pour
Merci.
Les infos.
À vous, à bientôt.
Je regarde un petit peu ce qui se passe aussi dans la conversation WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer des petits WhatsApp en direct, on peut y répondre. Je vous rappelle le numéro 06 12 424 424. Il y en a certains qui se posent la question, Seb comme toi d'ailleurs, de pourquoi ne pas mettre le match mardi soir. Alors Flo y a répondu un petit peu partiellement. Il y a un règlement évidemment qui est appliqué, et puis après ça pose d'autres problèmes de calendrier avec le match, tu le disais, à venir aussi vendredi face à Strasbourg.
Ouais, alors ça aurait pu entre mardi et vendredi, ces trois jours, mais là on reste vraiment dans le règlement.
Est-ce que la ligue se couvre?
C'est ça,
la ligue se couvre quelque part en disant je prends parti pour personne, j'applique juste un règlement.
Ils prennent parti pour le règlement finalement, et même s'il y a effectivement la cérémonie demain et que ça arrange pas les Parisiens, au moins ils restent droit dans leurs bottes, sachant que là, de toute façon, s'ils avaient pris une autre décision, ils se seraient fait tomber dessus, notamment par les Marseillais.
Exactement. 16h10 sur RMC. Le match, c'est demain soir. Il y a un match en ce moment entre le Paris FC et Strasbourg. La seconde période qui a repris il y a 5 minutes maintenant. Arnaud Valadon, Jean Bouins.
Toujours 1-0, ça n'a pas bougé pour Strasbourg. Il y a eu un changement et pas des moindres à la pause, puisque William Jeubels, l'attaquant de pointe du Paris FC, est sorti, remplacé par Goré. On va suivre quand même cette action pour les Parisiens avec Maxime Lopez dans la surface de réparation qui va essayer de centrer, c'est contré, le ballon qui n'est pas récupéré par Pierre Lesmelo mais qui va être quand même conservé par les Parisiens. Et je vous confirme, on est parti pour une grève totale des encouragements du parquage strasbourgeois. Vous savez qu'il y a un conflit entre certains groupes de supporters, notamment les Ultra Boys, et la direction du club, notamment à propos de la multipropriété, puisque Strasbourg appartient à la Galaxy Blue Co, qui comporte notamment Chelsea. D'habitude, c'est 15 minutes de grève et d'encouragement. Et bien là, première mi-temps muette, et ça continue, même sur le but de Paes, c'était pas franchement la grande régalade. Et il y a un signe pour savoir quand un cop fait grève. Et bien, ils sont assis, la grande majorité des quelques 1000 supporters strasbourgeois.
Bah, ils font le déplacement et ils n'encouragent pas du tout.
Non. Bah, au moins, ils voient le match.
Oui, mais ils auraient pu le voir comme nous, là, devant la télé.
Bah, c'est plus sympa au stade.
Oui, c'est sûr.
Ah, mais d'avoir fait le déplacement quand même. Ouais,
et derrière un filet, la frappe d'Ilan Kemal, enroulée avec son pied gauche, mais qui n'inquiète pas plus que ça. Mike Penders, qui a quand même dû plonger sur sa droite, mais sans grande difficulté, il a capté ce ballon. Les supporters ont décidé. Bon, il n'y a pas non plus un grand déplacement, même s'il y a quoi 5 heures de route entre Paris et Strasbourg. Attention, ce ballon pour les Strasbourgeois. Godot sur le côté gauche qui va essayer de provoquer Barré Traoré. Le ballon pour Diego Moreira qui ne peut mettre l'intérieur du pied et frapper. Le bon retour de Noah Sangui. Allez, peut-être emballer cette partie avec Camara qui donne un ballon dans le dos à Maxime Lopez qui va devoir reculer un petit peu et pas pouvoir tout de suite enchaîner vers l'avant. Ilan Kebal, il y a des espaces sur le côté gauche avec Moses Simon. Mais malheureusement, cette transversale d'Ilan Kebal est trop profonde pour l'ailier gauche nigérian sur le côté gauche. Ce sera directement une touche. 1-0 pour Strasbourg. On joue depuis 53 minutes à Jean Bouin.
Tu vois les Parisiens arriver à revenir dans ce match, Seb?
Ouais, en tout cas, ils sont plus hauts, ils sont plus déterminés là, depuis le début de la seconde période. Il y a eu ce changement qui m'arrange parce que j'avais parié pour le but de Jeubels. Mais bon, bref. Mais en tout cas, oui, ils rentrent avec des meilleures intentions. La seule chose qui peut se passer, c'est qu'il y a du talent côté strasbourgeois et sur les contres, ils peuvent se faire piéger. Mais en tout cas, ils ont plus de maîtrise et il y a encore quelques cartouches, notamment avec Crasso qui pourrait rentrer. Ouais, je les vois bien revenir dans ce match.
On va voir comment se déroule la suite de cette seconde période. Il y a encore du temps évidemment pour les Parisiens pour revenir dans ce match. On est sur les routes aussi du Rwanda en ce moment pour les championnats du monde du cyclisme sur route. Justement, on suit le contre-la-montre aujourd'hui avec Léna Marjac. Paul Sexas est arrivé et les favoris sont sur la route.
Oui, Paul Sexas, donc le Français de 18 ans qui était là pour apprendre, qui vit ses premiers championnats du monde senior, signe pour l'instant le cinquième temps provisoire avec 1 minute 40 de retard. Il n'y aura donc pas de podium pour lui, pour Paul Sexas. On suivra également Bruno Armirail qui a signé un plutôt bon temps au premier temps intermédiaire puisqu'il a le cinquième temps provisoire. Mais tu l'as dit, Flora, les gros sont en piste. Remco Evenepoel, le Belge, double champion du monde du chrono, et surtout Tadej Pogacar qui lui aussi veut essayer d'aller chercher son premier titre sur cette discipline. Tadej Pogacar qui a signé le troisième temps au premier pointage, et celui qui a le meilleur, c'est Remco Evenepoel. Donc voilà, le duel est lancé entre les deux hommes, entre Remco Evenepoel qui va essayer d'aller chercher un troisième titre d'affilée en chrono, en contre-la-montre, et Tadej Pogacar pour l'instant, donc troisième temps. Et entre les deux, on a un Mexicain, Isaac Del Toro, qui s'est inséré entre Remco Evenepoel et Tadej Pogacar.
Merci beaucoup Léna. 16h15 tout pile sur RMC, on marque une pause et on revient juste après avec Sébastien Piocel pour la suite de ce Paris FC Strasbourg 1-0 toujours pour les Strasbourgeois. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Flora Moussi.
16h19 sur RMC, on est de retour dans l'Intégral Sport. On va aller à Jambon avec un coup franc Arnaud Valadon pour le PSG.
Ça fait 3 points. Hommage au Stade français. Ouais. Hommage au Stade français, puisque ce coup franc Kébal qui est à l'entrée de la surface de réparation sur le côté droit, une sorte presque de mini corner si vous voulez, il vient de transmettre en retrait à Marie Traoré, dont la tentative de l'intérieur du pied droit s'est envolée.
C'est Simon. C'est fou, bon, à la rigueur la frappe ça peut arriver de se tromper, mais c'est que la combinaison, il est vraiment seul.
Seul entrée de la surface de réparation
de la part des Parisiens, il aurait presque le temps de contrôler là. C'est étrange qu'il ait laissé comme ça aussi.
Petit Emega, événement, ouais. Emmanuel Emega qui va rentrer après sa blessure contractée face à Brøndby en Coupe d'Europe fin août. Je regarde la réaction du parquage. Oui, mais c'est on est au Paris FC.
Tu nous as dit.
Oui, mais les sifflets c'est côté Paris FC. Voilà, ils sont quand même à l'extérieur. Le COP strasbourgeois, écoute, quelques-uns ont applaudi, sinon c'est plutôt l'indifférence. L'entrée de Félix Le Maréchal à la place de Paez, donc on change les deux attaquants et Guéladoué va également faire son entrée dans un instant. Le frère.
Des vraies armes côté.
Ah oui, quand tu fais rentrer ça à l'heure de jeu, puisqu'on dispute la 61e, 1-0 pour Strasbourg, il y a des vraies ressources sur le banc. Pour les Strasbourgeois, c'est Godot, l'ailier gauche strasbourgeois qui est sorti, et Guéladoué lui qui est rentré à droite, donc on va faire un petit peu. Diego Moreira retrouve le côté gauche et donc son pied gauche, ce sera un peu plus confortable pour l'international belge. Alimani Gori qui a remplacé Jebels, qui va obtenir une touche dans le corps strasbourgeois juste devant le banc de Stéphane Gilly, l'entraîneur du Paris FC. Les Parisiens qui restent sur deux succès de suite et qui aimeraient continuer leur marche en avant, qui ont marqué 6 points depuis le début de la saison. Les Strasbourgeois pour l'instant, eh bien, avec ces 3 points potentiels, auraient 12 points et seraient donc à la hauteur de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain, qui a évidemment un match en retard. Mais quel début de saison de la part du Racing si cela venait se confirmer dans la dernière demi-heure de cette partie. Attention, le ballon avec Julien Lopez qui va rentrer à Alimani Gori dans la surface de réparation. Gori, la frappe. Alors soit c'est une frappe ratée, soit c'est un centre raté, vous choisissez. Mais c'est fini,
cas,
ça finit en sortie de but. On ne doit pas dire centre tir, soit c'est un centre, soit c'est un tir.
Je pense qu'il voulait frapper.
Je pense aussi.
Je pense que c'est une frappe, oui.
L'appel est très bon, la passe aussi de Maxime Lopez, elle est vraiment donnée dans le bon timing. Et après, il passe bien devant, mais je ne sais pas en fait s'il ne veut pas centrer.
Tu crois ? Il lève pas du tout la tête pour le coup. Je sais pas.
Pour lui, vaut mieux dire qu'il a essayé de centrer.
Simon n'a pas fait ce qu'il fallait.
Ça, c'est l'appel qui n'était pas bon. En fait. Ouais, c'est compliqué quand même pour les Parisiens, en tout cas dans le dernier geste, évidemment. On parle des Parisiens. Tiens, prenons des nouvelles du Paris Saint-Germain qui devait jouer justement ce soir dans le choc face à l'Olympique de Marseille. Match reporté, si vous nous rejoignez, demain à 20h. Arthur Perrault est toujours avec nous, Arthur. Sous la pluie marseillaise, ça s'arrange ou pas du tout?
Non, pas vraiment. Il pleut toujours sur le parvis du stade Vélodrome, où il y a quand même quelques supporters qui patientent déjà depuis plusieurs heures. Alors évidemment, ils ont appris la nouvelle du report de ce match, on le rappelle, demain soir à 20h, mais certains ont fait beaucoup de route. On a croisé des supporters marseillais qui viennent de Bourgogne, par exemple, qui ont pris la voiture très très tôt ce matin pour arriver sur place. Donc certains sont d'ailleurs un peu perturbés parce qu'ils se disent on va devoir prolonger notre hôtel, ça nous fait rester une nuit de plus, en plus. Est-ce que ça va être possible avec le travail? Donc voilà, chacun est en train un peu de s'organiser à sa façon autour du stade, alors que les supporters patientent d'ici la rencontre prévue demain soir finalement.
Il y a quelques messages dans la conversation WhatsApp d'RMC. Arthur, évidemment, il y a un match de top 14 qui est prévu ce soir entre Toulon et La Rochelle, qui est maintenu, lui, pour le coup. Alors, il y a déjà beaucoup de supporters parisiens, notamment, qui se demandent pourquoi ce match-là est maintenu, alors que celui au Vélodrome a été reporté. Si on peut se poser la question, c'est vrai.
La question peut se poser. Après, pour avoir observé plusieurs cartes sorties par Météo France, On peut maintenant voilà, vraiment prévoir
cibler
où
vraiment,
l'orage va frapper exactement, où la grêle qui est aussi annoncée ici à Marseille va tomber, où les pluies diluviennes vont aussi voilà, tomber. Donc, et des cartes que vous pouvez retrouver sur Météo France. Voilà, on voit très clairement que ça passe au-dessus de Marseille et du stade Vélodrome. Il y a un pic qui est prévu entre 19h et 21h. Là, pour l'instant, voilà, ça pleut un petit peu. On a entendu les orages au loin il y a de ça quelques minutes. Mais ça va vraiment s'aggraver. Alors que, visiblement, oui, au-dessus de Toulon,
ça passe.
Le RCT est un petit peu épargné. Voilà. Le RCT peut aller jouer au loto, mais l'OM, c'est un peu plus compliqué pour l'instant.
On se demande aussi, évidemment, je nous donnais l'info tout à l'heure, Arthur, que les joueurs parisiens sont dans l'avion. Du coup, actuellement pour rentrer,
ils ont
décollé pour rentrer à Paris. Certains se demandent du coup quelle équipe parisienne va redécoller demain pour Marseille, parce qu'on le rappelle évidemment que le débat c'est que dans le même temps il y aura la cérémonie du Ballon d'Or le soir. On parlait notamment d'Ousmane Dembélé qui est concerné pour le titre suprême, mais c'est pas le seul, parce que Dembélé est suspendu et forfait pour le match face à Marseille. Mais Luis Enrique aussi peut être concerné pour le titre de meilleur entraîneur de l'année. D'autres joueurs parisiens aussi.
Pour l'équipe type.
Exactement, pour l'équipe type.
Il y a plusieurs choses.
Alors est-ce que vraiment, du coup, la question qu'on se pose, c'est si les Parisiens vont aller avec la grosse équipe à Marseille? En gros, c'est ça la question.
C'est une très bonne question à laquelle je ne peux pas encore répondre. Pourquoi ? Parce que ça va dépendre, je pense, dans l'ordre des choses, de qui sera présent au Ballon d'Or pour le Paris Saint-Germain.
Oui, la délégation qui sera envoyée, oui.
Voilà, exactement. On rappelle la cérémonie qui est prévue demain soir à 21h, qui va débuter une petite heure après le coup d'envoi de cette rencontre. Là où ça ne devrait pas se chevaucher, c'est que le moment où on va connaître le nom du Ballon d'Or, c'est plutôt vers 22h30, ouais. 23h, et donc le match entre l'OM et le Paris Saint-Germain sera terminé à ce moment-là. La question est très bonne parce que forcément, si des joueurs là de retour à Paris disent je sais pas, je suis un Gvichak Varasrelia, je suis un Désiré Doué, je suis un Ousmane Dembélé, je ne cite que, j'ai envie d'aller au Ballon d'Or, que va répondre Luis Enrique? Et toute la question est là. Je suis pas sûr que Luis Enrique dise vous avez raison, allez-y,
je pense que c'est lui qui va décider,
et je change mon équipe et je change mon équipe pour aller à Marseille.
Je pense que c'est pas un match anodin quand même dans la saison du PSG.
Non, pas du tout. Mais pour autant, et c'est pour ça que la question est très bonne, je pense vraiment qu'il faut surveiller quelle équipe va être envoyée par le Paris Saint-Germain demain et quelle équipe va prendre l'avion aux alentours de 11h, 11h30 demain matin.
Il va envoyer une équipe au Vélodrome et une équipe pour le Ballon d'Or. Voilà, ils ont un gros effectif. Donc,
Après, et tu en parlais, Flora, il faut que tout le monde le sache, Luis Enrique a horreur des trophées individuels. Il l'a déjà dit lorsqu'il était au FC Barcelone. Il l'a redit subtilement il y a de ça quelques jours au campus PSG lors d'une conférence de presse. Il a horreur de ça. Bon, on verra bien, hein, évidemment, qu'il est nommé pour être meilleur entraîneur. On sait qu'il a aussi une fondation. Suite au décès tragique de sa petite fille, il a monté une fondation pour soutenir la maladie dont était atteinte sa petite fille. Voilà, il peut aussi éventuellement récupérer ce trophée-là. Est-ce qu'il sera là, lui? Bon, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué, forcément.
Bah oui, lui, pour le coup.
À Marseille. Mais lui, pour le coup, n'a pas trop le choix, finalement. Mm-mm. Ça l'arrangera peut-être.
Seb, comment tu vois les choses, toi? T'es Luis Enrique. Je sais pas, imagine un des joueurs vient te voir et te dit moi, j'ai plus intérêt à aller à la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que tu vois vraiment Luis Enrique?
Un joueur qui peut jouer? Un joueur
oui.
Enfin. Après,
ça paraît quand même assez.
Je côtoie pas
improbable.
Le dessert parisien, mais on voit quel type de personne et d'entraîneur il est. Donc avec beaucoup de travail, d'intransigeance. Ça c'est peut-être l'image aussi qu'on a de l'extérieur. Mais sincèrement, je vois pas déjà un joueur. Enfin, je vois pas un joueur, notamment par exemple, je prends l'exemple d'Hakimi.
Oui. Qui pour le coup est concerné et va jouer a priori.
Mais tu penses vraiment qu'Arthur, qu'un joueur Hakimi va demander, préférer aller au Ballon d'Or que jouer un classique?
J'allais te retourner la question parce que t'as été joueur et tu le sais mieux que moi. Si demain
Ballon d'Or,
tu te dis je suis invité au Ballon d'Or, je suis peut-être pas le vainqueur, mais je suis invité. Ouais. C'est peut-être la seule fois dans ma vie où je vais être nommé et invité. Qu'est-ce que tu fais?
Non,
il y a des chances qu'il soit dans l'équipe.
Moi, je pense que tu te poses la question.
Non, enfin moi, en tout cas, allez, je ferme les yeux.
Tu te projettes?
Imagine. c'est compliqué de se projeter. Je privilégie le match et notamment ce match. En fait.
Oui, encore une fois, c'est un match face à l'OM au Vélodrome. Ouais. Donc effectivement, la question se pose. Tu restes avec nous évidemment, Arthur. On va juste faire un petit temps score en Ligue 1 parce que ça joue en ce moment à Paris aussi. Cette fois, le Paris FC à Jean-Moins face à Strasbourg. Arnaud Valadon.
la 69e, toujours un but à zéro pour Strasbourg. Et on vient de voir la première frappe d'Emmanuel Emega, le capitaine. Il y a eu quelques frissons dans le parquage strasbourgeois. Frappe contrée, 1-0 toujours pour Paris à 20 minutes de la fin.
Et on a Khalil qui est avec nous au 32-16, supporter parisien. Salut Khalil.
Salut l'équipe, comment ça va?
Salut Khalil.
Bah ça va très bien, et toi, comment tu prends ce report du match là? Toi tu vas avoir le double écran du coup lundi soir là, entre le match et la cérémonie.
Ouais, après moi je le prends pas mal. Moi il y a juste un truc que je comprends pas, je vois un peu les réactions. On a l'impression que les Marseillais pensent que les Parisiens ont fait exprès au tout début, bien évidemment avant de connaître la règle, que sous report météorologique le match se déroule le lendemain. Vous pensez que donc le PSG avait fait exprès pour potentiellement ramener des joueurs qui pouvaient revenir, dont Barcola et Jean Pac. Je suis désolé pour le bruit, il y a une navette de la mairie de Paris qui passe. En tout cas, nous, on a aucune crainte, mais vraiment aucune crainte. Avec même une équipe remaniée, on avait zéro crainte sur le Classico. Concernant le Ballon d'Or, moi je suis un partisan. C'est quand même pas commun qu'on ait autant de nominés dans un club français. Ah oui. Et des nominés qui peuvent le gagner, parce qu'on parlait il y a un instant, j'ai entendu d'Hakimi, mais Hakimi il est nominé dans beaucoup de cas dans le top 5. Et donc moi je suis désolé, moi je suis passionné de football. Demain je suis nominé dans le top 5. Classico, ouais. Je le mets de côté, je vais tout de suite au Ballon d'Or.
Ah ouais,
je vous le dis tout de suite. Et moi je suis joueur demain pour marquer le coup, parce que c'est moi ce que je comprends pas, c'est que le report, il aurait pu être fait sur toute la journée. J'entends, il y a des gens, ils sont venus de Bretagne, mais je suis aussi un partisan de support sur local team. Il y a des clubs en Bretagne, il n'y a pas de problème pour ça.
Je pense que c'est aussi le diffuseur qui joue dans l'horaire, Khalil.
Ouais, mais on aurait pu faire le match. Parce que demain, s'il y a un Parisien qui prend le Ballon d'Or, on va aussi jouer sur l'image du Ballon d'Or français au nom de l'Europe et du foot mondial. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on aurait pu faire déjà le match peut-être un peu plus tôt aujourd'hui, peut-être. Ou peut-être le mettre à 17h demain ou 18h pour laisser le temps.
Ouais, mais
ça a été demandé, ouais. Khalil, t'as raison. Le Paris Saint-Germain est d'abord demandé.
Mais je sais très bien que les Marseillais n'ont pas accepté. Ça, c'est clair et net que les Marseillais n'ont pas accepté pour soi-disant le stade rempli. Mais ils peuvent remplir le stade ou pas le remplir à 3-0, à 45e, il va être climatisé. ça, c'est ce qu'ils voudront. Mais moi, je trouve ça manque de classe parce que, voilà, ils se disent grand club. On s'arrange, on le met à 18h, on est fair play. Vous avez 8 nominés, je crois.
Ah, donc t'es en train de dire que ça a été fait volontairement de la part des Marseillais.
Et bien sûr que les Marseillais ont refusé, mais ça va sortir. Mais les Marseillais ont clairement refusé. Après, c'est leur droit. Hein. Ils ont le droit. Mais moi, je suis le PSG, j'envoie une équipe demain.
Khalil, t'es sûr de cette info qu'ils ont demandé, les Parisiens ont demandé à jouer plus tôt aujourd'hui?
Arthur, t'as des infos là-dessus, toi?
Oui. Dans les discussions, il y a plusieurs choses.
Attends, on va juste écouter Arthur.
Il y a eu d'abord l'horaire plus tôt, c'est-à-dire plutôt 15h, 17h. Et dans les discussions, à un moment, il y a même une date beaucoup plus lointaine, au mois de décembre, qui a été proposée. Sauf que personne ne s'est mis d'accord. Et je pense, et là, c'est pas une info, mais c'est la suite logique, je pense que dans les discussions entre Paris, Marseille et la Ligue, comme personne n'a réussi à se mettre d'accord, et bien la chose qui prévaut dans ces cas-là, c'est le règlement. Et bien la Ligue dit, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on respecte le règlement, et le règlement, c'est demain.
Ouais, mais 15h-17h, tu parles de demain ou tu parles d'aujourd'hui?
Non, d'aujourd'hui.
De demain.
C'est pour ça que je demandais à Khalil où il a eu l'information qu'ils avaient déjà discuté pour avancer le match aujourd'hui.
Sauf que ça, le problème, c'est que la Ligue l'a dit. Un match à 15h, vous ne faites pas d'audience. Un match à 20h, vous faites de l'audience. Mais un match à 15h, à 17h.
Il y a effectivement
déjà, le stade ne sera pas plein. Les enfants sont à l'école.
Non, mais moi je te parlais d'aujourd'hui. Parce qu'a priori, c'est ce que disait Khalil. C'est ça, je ne me trompe pas, Khalil. C'est qu'ils avaient, ils avaient demandé.
Mais t'as d'autres matchs en même temps. Enfin, des matchs à 15h, t'as le multi à 17h15.
Ouais, mais après, je sais pas. Comme Khalil donne cette information, est-ce qu'a priori, il était sûr de lui?
Je suis pas sûr. On va remercier Arthur parce qu'il y a d'autres obligations aussi à côté. Si tu as d'autres infos, Arthur, évidemment, tu reviens nous donner tout ça à l'antenne. Khalil, c'est vrai que, alors toi, tu pointes du doigt les Marseillais. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, du coup, demain soir? Tu regardes plutôt la cérémonie, tu regardes le match? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus?
Juste deux choses avant d'être coupé, s'il vous plaît. Non, j'ai pas précisé que c'était aujourd'hui. Je parlais de demain. Je pense qu'on aurait pu faire le match à 18h. C'est mon avis et je suis sûr que ça a dû être refusé, que ça a dû être mis sur la table. Et après, je peux comprendre l'avis des Marseillais, les gens votent, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre aussi le schéma que Paris a plus de, je crois, 8 nominés, que ce soit dans le Golden Boy, Ballon d'Or, plus équipe type de l'année. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je vais faire demain, c'est j'espère que le PSG va envoyer une équipe bis déjà au Vélodrome. Je leur souhaite. Et qu'on gagne aussi avec une équipe bis, mais totale, hein, que les 8 nominés n'y aillent pas. Et je vais regarder forcément le match, mais surtout le Ballon d'Or. Moi, le match, il est anecdotique, hein, clairement. On n'a plus rien à prouver avec Marseille. Hein. Ça fait 13 ans qu'ils... C'est eux qui ont approuvé. Nous, on n'a plus rien à prouver. Ça fait 13 ans qu'on leur marche dessus. Donc, avec tout le respect que j'ai pour les supporters marseillais, enfin, vous m'avez compris. Nous, c'est la priorité. Demain, c'est de voir un Parisien soulever le Ballon d'Or et être heureux pour lui. Et même le Golden Boy.
Ouais. On aura la réponse évidemment demain soir. On suivra tout ça sur RMC, le match et la cérémonie du Ballon d'Or. Merci beaucoup Khalil.
Merci.
Bon match à toi, bonne cérémonie aussi demain. On va du côté de Jean Bouin, Paris FC Strasbourg, ça se poursuit Arnaud Valadon. Comment ça se passe dans ce match? Est-ce que Strasbourg assoit sa domination? On voit qu'il y a un petit peu quelques petites occasions par-ci par-là de chaque côté. Hein.
Il y a un petit peu de tension, hein. Un quart d'heure de la fin. Strasbourg qui mène toujours 1-0. Mamadou Sarr, le capitaine strasbourgeois, qui vient décoper d'un carton jaune pour avoir déséquilibré alors que il partait un petit peu au but. Nouadiko, l'attaquant du Paris FC, qui est rentré à la place de Moses Simon. Carton jaune adressé par Monsieur Le Texier. On a vu Julien Lopez prendre aussi Maxime Lopez, pardon. Julien, c'est le frangin qui est en train de s'échauffer. Maxime Lopez, l'ancien Marseillais, prend un carton jaune pour contestation. Voilà, le Paris FC qui essaye, mais ça manque peut-être d'un petit peu de talent aussi devant. Hein.
Ouais, de mauvais choix. Donc, on peut parler aussi de talent, mais ils n'arrivent pas vraiment à déstabiliser cette défense de Strasbourg. Ils n'arrivent pas à emballer. Le fait aussi, je me pose la question, comme c'est un nouveau stade, les repères. Non, mais c'est vrai, dans le fait d'être à domicile et d'emballer vraiment une rencontre quand on a besoin de son public, on a besoin de. Il n'y a pas encore eu vraiment de.
C'est plus facile ici qu'à Charletti. Hein.
Oui, peut-être, mais
il faut s'adapter.
Je veux dire, je parle plutôt de repères et pas forcément que d'ambiance. Mais en tout cas, ils n'arrivent pas à déstabiliser, ne serait-ce qu'à être en mode. Rouleau compresseur pour essayer de revenir, parce que je pense quand même que là Strasbourg ils sont plutôt dans la gestion et qu'il y aurait moyen de faire un peu mieux quoi pour les Parisiens.
Il y a encore du temps, il y a encore un bon quart d'heure à jouer dans ce match toujours 1-0 donc pour Strasbourg face au Paris FC. Comment se passe le duel à distance entre Remco Evenepoel et Tadej Pogacar sur les routes du Rwanda? C'est les championnats du monde de cyclisme avec le contre-la-montre en ce moment et ça va se jouer évidemment entre les deux favoris, Léna Marjac.
Pour l'instant, il n'y a pas match puisque Remco Evenepoel est en train de survoler ce chrono à Kigali au Rwanda pour ses championnats du monde. Au deuxième temps intermédiaire, il a tout simplement mis 1 minute 42 d'avance à Tadej Pogacar et 1 minute 17 d'avance face à l'Australien Jay Vine. Donc Remco Evenepoel, le Belge double tenant du titre du chrono, pour l'instant est en totale maîtrise. Et là, on est dans une partie un petit peu descendante de ce chrono hein, qui fait plus de 40 km, et bien dans quelques instants, Remco Evenepoel pourrait avoir en ligne de mire justement Tadej Pogacar. C'est vous dire à quel point Remco Evenepoel est très très fort sur cette course d'un jour. On le sait, c'est sa spécialité au Belge. Il a remporté les deux dernières éditions et donc on verra au troisième temps intermédiaire. Mais pour l'instant, et bien Remco Evenepoel maîtrise totalement les débats aujourd'hui face à Tadej Pogacar. Et d'ailleurs, Tadej Pogacar, pour l'instant, la deuxième place est compromise, donc à voir sur quelle marche du podium il va finir le Slovène, puisqu'il y a cet Australien Jay Vine qui est là, qui est dans la bataille face à Tadej Pogacar.
On va voir évidemment jusqu'au bout ce duel et la clipasse va terminer Tadej Pogacar. 16h37 sur RMC, une pause et puis on revient juste après avec Sébastien Piocelle pour suivre la fin de ce PFC à Strasbourg, toujours 1-0 pour les Strasbourgeois. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Flora Moussi.
16h40 sur RMC, vous êtes bien dans l'Intégral Sport, on est toujours avec Sébastien Piocelle et on suit évidemment la fin de ce PFC Strasbourg. Ça va être dur pour les Parisiens, Arnaud Valadon, parce que le 2-0 est là pour Strasbourg.
Signé Guéladoué à 10 minutes de la fin de cette partie avec l'énorme travail d'Emmanuel Emega, magnifiquement lancé par Diego Moreira, une perte de balle assez stupide d'un défenseur parisien à la ligne médiane et derrière le contre des Alsaciens, que ça va vite. Et Emmanuel Emega qui est bien juste dans la surface de réparation devant Nkambadio est allé trouver à ras de terre à sa droite Guéladoué qui a fait une course absolument magnifique pour marquer et tacler ce ballon dans le but vide. Et derrière l'image Emega, puisqu'on est juste devant le parc marquer à Strasbourg. Il est venu en silence, quasiment allez, trois quarts du parquage à siffler, alors que la réduction de l'écart à l'instant même pour l'IFC, eh bien c'est peut-être pas terminé avec donc ce but du 2-1 pour le Paris FC, avec est-ce que c'est Camara qui a marqué, c'est Nouadiko qui est rentré, l'attaquant en cours de deuxième mi-temps. Voilà, 2-1, mais juste pour terminer sur Emmanuel Emega, parce que c'est le gros feuilleton en silence, il est devant le COP, mais il y a quasiment trois quarts du COP qui l'applaudit, une vingtaine d'ultras continuent de bouder, les joueurs du Racing Club de Strasbourg sont venus devant le parquage célébrer ce but du 2-0, mais désormais il y a 2-1 après 81 minutes de jouer à Jean Bouin. Le suspense s'est relancé avec cette réduction de l'écart du Paris FC, 2-1 face à Strasbourg, 2-1 pour Strasbourg.
Ça s'emballe.
C'est totalement relancé, du coup. Strasbourg va gérer la fin de match, mais en fait, non.
Justement, alors bon, je sais pas, mais ils se sont peut-être un peu emballés. Ils se sont tous mis derrière leur capitaine. Ils ont raison, mais derrière, manque de concentration et quasiment dans la foulée, la réduction du score de la part des Parisiens. Ce qui fait qu'on en revient au même. Il reste une grosse dizaine de minutes et la possibilité pour Paris de revenir. Mais pour revenir sur le second but strasbourgeois, c'est vraiment là. Bah déjà, c'est les deux qui sortent du banc, hein, que ce soit Emega ou Doué qui vient pousser le ballon. Mais c'est surtout l'énorme match, je trouve, que fait Moreira, moi, du côté de
impressionnant,
de Strasbourg.
Hein. Ouais. Quel volume il a mis, d'abord sur le côté droit, d'abord sur le côté gauche. Mais attention, Ilan Kebal qui feinte justement, qui est dans la surface de réparation. Il a toujours le ballon, Ilan Kebal. Ah, mais il est dépossédé par Félix Le Maréchal. Et tu parlais, est-ce que le Paris FC allait un petit peu enflammer la partie? Eh bien là, avec cette réduction de l'écart, on sent Jean Bouin aussi, on sent quelque chose qui peut se passer du côté du stade parisien, juste à côté du Parc des Princes que l'on voit. Est-ce qu'à faute sur Ilan Kebal? Oui, il y aura un coup franc, une trentaine de mètres, quasi plein axe. Le Paris FC qui peut revenir dans cette partie, alors qu'à 2-0 on se disait eh bien il n'y avait plus de suspense. 2-0 à la 78e, et bien à la 81e la réduction de l'écart signée Nouadiko, et donc ça fait 2-1. Et ce coup franc à 30 mètres, il y a Yann Kebal, il y a Maxime Lopez aussi qui est là pour éventuellement le frapper. Alors, petite information importante, Mike Penders a le soleil face à lui, ce qui n'est jamais très agréable quand on est gardien de but. Donc à voir ce que Maxime Lopez, qui va se charger de ce coup franc plein axe, alors qu'Ilan Kebal est allé s'isoler sur le côté droit pour pourquoi pas une combinaison. Valentine Barco essaie de couvrir ça. 2-1 pour Strasbourg, la 84e. Avec Lopez qui va mettre ce ballon un petit peu en cloche. Penders qui sort avec un de ses défenseurs qui est resté au sol. Allez, le ballon qui est dégagé.
Il a boxé son partenaire. Tellement il faut.
Genou en avant en plus là, je pense que dans le bas du dos là, ça.
C'est Doué qui est resté
c'est
au sol.
C'est Guéladoué qui. Voilà. C'est Guéladoué qui a fait cette tête, et Mike Penders qui vient le réconforter en disant excuse-moi.
Excuse-moi, je vois rien. Ça aurait pu être dans
la. Il a tout emporté sur le passage là.
Moi, on me dit de dégager, je dégage. Voilà. C'était un petit peu ça. Je suis payé pour ça. Donc le jeu qui a été arrêté, qui va reprendre par une balle à terre, 2-1 pour Strasbourg. Donc face au Paris FC qui a gagné son premier match à domicile ici à Jean Bouin, c'était face à Metz. Le ballon avec Ilan Kebal, ils sont en train de défendre les Strasbourgeois. Le centre de 2 mètres rentré à la place d'Amari Traoré, c'est un petit peu trop profond, ça va être dégagé et on essaie de mettre un long ballon. De toute façon, il y a Emmanuel Emega, donc on peut envoyer des longs ballons. Le Néerlandais évidemment raffole des espaces et on a obtenu une touche pour les Strasbourgeois à hauteur de la ligne médiane. On effectue un nouveau changement avec Diego Moreira remplacé par Omo Mabidele. Donc on va un petit peu densifier la défense avec la rentrée de Omo Mabidele pour Liam Rosenior, parce qu'il faut évidemment tenir ce score. Ça serait dommage, alors que ils ont plutôt maîtrisé les débats les Strasbourgeois dans cette partie, avec des Parisiens qui ont beaucoup tenté mais qui ont été assez inoffensifs au bout du compte. Et l'importance d'aller sécuriser cette victoire pour Liam Rosenior et les Strasbourgeois, ça ferait déjà 12 points après 5 journées pour le Racing Club de Strasbourg. La touche à hauteur de la ligne médiane, il reste 5 minutes tout pile dans le temps réglementaire de cette partie. 2-1 pour Strasbourg sur la pelouse du Paris FC.
On va les vivre évidemment ces 5 dernières minutes, mais on va aller au Rwanda où se passent les championnats du monde de cyclisme sur route, le contre-la-montre aujourd'hui. Léna Marjac avec Remco Evenepoel qui est sur le point de rattraper Tadej Pogacar.
Oui, l'image est assez folle, parce que c'est vrai qu'on s'attendait à un gros duel entre entre les deux, entre Remco Evenepoel, le Belge, et Tadej Pogacar. Mais finalement, il n'y a clairement pas match. Et justement, à l'instant, Bruno Armirail, notre Français, qui termine 6e provisoire, et donc dans cette dernière difficulté, dans cette section pavée, Remco Evenepoel qui est à quelques mètres maintenant de Tadej Pogacar et qui va aller gentiment lui passer devant, le double champion du monde de la discipline. Voilà, c'est fait. Remco Evenepoel qui double Tadej Pogacar dans cette côte de Kimi Uhrara, la dernière difficulté de ce contre-la-montre des mondiaux à Kigali au Rwanda. Image forte, parce que on attendait quand même Tadej Pogacar. S'il s'aligne sur une course pareille, c'est parce qu'il veut aller au bout, c'est parce qu'il veut gagner. Mais aujourd'hui, le plus fort sur des courses d'un jour, sur des chronos, c'est le Belge Remco Evenepoel, double tenant du titre dans des championnats du monde, qui va aller chercher un triplé. Et maintenant, on va voir aussi, est-ce que Tadej Pogacar va rester sur le podium, parce que devant, il y a du monde. Au troisième temps intermédiaire, Tadej Pogacar avait le quatrième temps, donc il va falloir faire un gros finish, parce qu'il y a l'Australien Jevine qui vient de prendre le premier temps provisoire, et juste derrière, le Belge Ilan Van Wilder qui est deuxième sur le podium, deuxième temps provisoire. Et donc, est-ce que Tadej Pogacar va réussir à grappiller des petites secondes pour aller chercher une place sur le podium? Mais en attendant, l'image forte de cette fin de chrono de ces championnats du monde, c'est Remco Evenepoel.
Oh, qui est allé. Strasbourgeois, Emmanuel Emega, la position d'enjeu qui est signalée, il fait non. Non, je ne suis pas en jeu. Ça va être probablement checké. Monsieur le Texier qui demande d'attendre. Ça serait le but du 3 pour Strasbourg. Seul au deuxième poteau, Emmanuel Emega qui est venu propulser ce ballon sur ce coup de pied arrêté de Valentin Barco. On va vérifier ça, s'il y a une position de hors-jeu ou non d'Emmanuel Emega. Ça serait
la belle histoire.
Son premier but. Exactement. Alors, on lui aura privé un peu la célébration. Vous avez le ralenti, nous on n'a rien.
Ouais, on est en train de le voir, mais on n'a pas le ralenti avec la ligne. Mais au départ de l'action, j'ai. Ah, parce que le ballon est touché d'abord.
Ah, oui, non, touché, oui, mais même en étant touché, c'est. Moi, je pense qu'il est hors jeu.
Apparemment, là, le but. Le but est refusé, ouais.
Pour l'instant, on attend. On attend quand même, monsieur le Texier qui n'a pas autorisé la reprise du jeu.
Nous, on l'a refusé.
Peut-être qu'il est branché sur RMC dans l'oreillette. 103 points à Paris, on rappelle la fréquence.
Après, on voit, mais ça discute un petit peu là avec monsieur le Texier. On prend
il y aura un
temps.
Changement. Jean-Philippe Crasso va rentrer pour le Paris FC, mais effectivement, il aime bien les beaux rayons de soleil sur la région parisienne, monsieur le Texier. Et le changement pour Paris FC, c'est Sangui, le latéral, qui sort. Et Jean-Philippe Crasso, évidemment, on veut essayer d'aller égaliser. Mais là, si il y a ce but du 3-1 qui est finalement accordé après
ça change
arbitrage vidéo.
La fin de match, ça c'est sûr.
Exactement, le jeu n'a toujours pas repris. On attend, il n'a pas la main sur l'oreillette. Monsieur le Texier attend tranquillement près du rond central. Nkambagno n'a pas effectué. Il y a doute, hein, ça prend du temps quand même, cette vérification.
Écoute, est-ce qu'on va être déjugé, Seb?
Moi, il me semblait.
On a revu juste des ralentis assez simples. On n'a pas vu.
Puis il faut peut-être à la fois checker au moment où Valentin Barco botte ce coup de pied arrêté, et si c'est effectivement dévié ensuite.
Non, à ce moment-là, il est pas. Enfin,
au départ du ballon, il n'est pas. Ouais. Après, c'est au moment de la
décision. Arbitrage vidéo. Et il y a but. Emmanuel Emega qui enlève son maillot, qui va devant le parquage et qui montre avec son brassard de capitaine. Il y a encore une vingtaine d'ultras qui ne bronchent pas, mais il n'y a pas de sifflet. Et le reste du parquage, ils sont à peu près 1000 qui célèbrent. Mais voilà, c'est pas non plus l'énorme joie, mais au moins c'est pas. Il n'y a pas de sifflet, c'est pas autant vindicatif. Et Valentin Barco qui montre le maillot d'Emega et le brassard comme ça devant le parquage et devant la vingtaine d'ultras qui boycottent mais qui ne sifflent pas. Ça va être une sacrée image que, après cette semaine très agitée pour le Racing Club de Strasbourg. Emmanuel Emega qui va prendre un carton jaune, hein, parce qu'il a retiré son maillot. Et ça fait donc 3-1 à quelques minutes de la fin de cette partie pour le Racing Club de Strasbourg sur la pelouse du Paris FC.
On revient tout de suite à Jean Bouin, mais ça y est, Remco Evenepoel va faire son arrivée. Il va être champion du monde à nouveau, Léna Marjac.
Oui, pour la troisième fois, Remco Evenepoel qui va remporter ce chrono des championnats du monde. C'est le troisième homme dans l'histoire à réaliser une telle performance. Remco Evenepoel, ça y est, à l'instant, qui passe la ligne d'arrivée à Kigali. Il est donc le nouveau champion du monde et pour la troisième année de suite. Et donc, le gros coup du jour, c'est Tadej Pogacar qui n'est même pas sur le podium. Il termine quatrième, le Slovène. On attendait donc ce duel entre les deux hommes, entre Remco Evenepoel et Tadej Pogacar. Richard, mais l'homme le plus fort aujourd'hui et sans conteste, c'est Remco Evenepoel, triple champion du monde du chrono, champion du monde ici à Kigali, au Rwanda, pour ses championnats du monde.
Merci beaucoup Léna. Remco Evenepoel qui écrase les chronos évidemment depuis plusieurs années maintenant. Allez, les dernières minutes, à 9 minutes de temps additionnel à Jean-Paul Arnaud Valadon.
Écoute, bah, il fait beau, c'est normal.
On en profite,
On en profite, un match sous le soleil.
Est-ce que t'es au soleil au moins ou t'es à l'ombre?
Non, on est à l'ombre, ce qui est un peu plus confortable. Oui. Voilà, il y a très peu de stades où on est au soleil. Il y a Lorient, on peut avoir le soleil dans les yeux pour commenter. C'est un moins peu moins pratique. Agréable. Mmh. C'est moins pratique, effectivement. Alors que ça s'échauffe un petit peu, puisqu'Emmanuel Emega garde le ballon.
Il a déjà un jaune en plus.
Ouais. Oui. Bon, on va peut-être pas forcément lui donner. Il a pris un jaune parce qu'il a retiré son maillot. Monsieur Le Texier qui veut calmer un petit peu tout le monde. Bon, avec 9 minutes d'arrêt de jeu. Voilà, il y a le temps peut-être pour le Paris FC de réduire une nouvelle fois l'écart, hein, puisque Strasbourg menait 2-0, 2-1 rapidement Nouadhiko et 3-1 avec Emmanuel Emega, le buteur et capitaine du Racing qui dans ce championnat, Emmanuel Emega, voilà, marque son premier but. Je suis en train de vérifier ça pour l'attaquant strasbourgeois et le capitaine. Deuxième but de la saison pour Emmanuel Emega. Le ballon pour le Paris FC avec Ilan Kebal à l'entrée de la surface de réparation et la bonne intervention de Hamoudou là-dessus, et les Strasbourgeois qui continuent de défendre. On récupère le ballon haut à l'image de Maxime Lopez, le centre à venir de Thibaut Despas sur la très vilaine semelle de Valentin Barco. Ce sera un carton jaune, il s'excuse, il a compris qu'il n'a pas uniquement joué le ballon et surtout pas le ballon là-dessus, Valentin Barco, et Mathieu Cafaro pardon, qui est victime de la faute, et ça va offrir un coup de pied arrêté près du poteau de corner pour les Parisiens là-dessus, avec Maxime Lopez une nouvelle fois qui va déboîter ce ballon et pourquoi pas marquer pour le PFC. Il y avait eu beaucoup de buts lors de la première à domicile, mais ça avait souri pour les hommes de Stéphane Gilly avec cette victoire 3-2 contre Metz. Cette fois-ci, il y a beaucoup de buts, mais c'est 3 buts pour le Racing notamment, qui confirme un peu plus son excellent début de saison et qui va s'installer dans le top 3 et qui sera même à égalité de points avec l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. C'est frappé par Lopez. Oh, attention, le ballon qui erre comme ça dans la surface de but, pas de main. Même si on réclame quelque chose du côté des Ultra Lutetia là-dessus, ça semblait quand même assez collé au corps, hein. Cette possible main, ce possible contact avec la main. Le ballon qui est toujours pour les joueurs du Paris FC. On est dans les 9 minutes de temps additionnel. Il reste désormais 7 minutes à jouer à Jean-Bouin. 3-1 pour le Racing Club de Strasbourg. Ilan Kebal dans le rond central. Tous les joueurs du Paris FC sont en attaque, sauf le gardien de Cambadio, la tête strasbourgeoise là-dessus, et on va pouvoir se dégager avec Ouattara. Et finalement, le ballon qui est récupéré par Crasso, la mauvaise entente. Crasso devant Guéladoué, attention, le ballon, deuxième poteau, Ali Benigori, et la réduction de l'écart. 3-2 pour Strasbourg. Paris qui revient à un petit but alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes de temps additionnel. C'est fou.
Il reste du temps effectivement pour revenir encore dans ce match. Ouais, il a fallu qu'on attende quoi, les 10-15 dernières minutes du match pour vibrer encore un peu plus. On revoit l'action.
3 buts en un quart d'heure, ouais, même un peu plus.
Plusieurs erreurs du côté
4 buts
côté
en un quart d'heure.
Strasbourg, là, et après même ce centre en retrait.
Il est tout seul encore.
Je sais pas. En fait, finalement, c'est même pas la passée. J'ai pas vu l'attaquant parisien qui loupe complètement sa frappe.
Là, ouais.
Finalement, c'est une belle passe cachée.
Nouadhiko. Nouadhiko qui rate sa frappe. Mais l'erreur vient du côté droit avec Guéladoué notamment, où en fait, il récupère le ballon, les Strasbourgeois, et ils le perdent à l'entrée de leur surface de réparation. Et ça permet à Crasso de rentrer dans la surface de réparation et de faire la différence. La faute d'Emmanuel Emega sur Thibaut Despet. Alors là, ça va promettre 5 minutes encore de temps additionnel assez folle dans ce stade Jean-Bouin. 17 000 spectateurs, c'est une belle affluence pour le Paris FC pour ce deuxième match de l'histoire. Oh, la mauvaise passe de Chergui, le ballon récupéré par les Strasbourgeois. Non, c'est récupéré par Kebal dans le rond central. Kebal qui va essayer de se jouer de Valentin Barco notamment et de Mathis Amougou. Le ballon sur dans le l'axe pour justement Ilan Kebal qui va donner le ballon, la tête plongeante de Mathieu Cafaro qui est un peu astucieuse, cette tête plongeante de Mathieu Cafaro pour essayer de remettre le ballon
en
face
tout cas,
au centre.
Gilly, il a mis une équipe hyper offensive là.
Ouais.
Ah bah oui.
On voit Kebal, il est dans les relayeurs et ouais. on
Et le centre de Mathieu Cafaro s'est renvoyé par Doucouré là-dessus. Et la touche à venir pour le Paris FC avec Thibaut Despet. Il met une pression folle sur la cage strasbourgeoise. Avec Pierre Lespelou, la remise pour Thibaut Despet. Le ballon pour Maxime Lopez sur le côté gauche. Maxime Lopez qui est dans les 35 derniers mètres, qui n'a pas trop de solution. Est-ce qu'il faut envoyer forcément un long ballon? Mathieu Cafaro près de la ligne de touche. Attention à la perte de balle. C'est récupéré par Embo avec Ilan Kebal. Est-ce qu'on va s'orienter sur le côté droit? Pour l'instant, on joue énormément à gauche. Maxime Lopez qui va essayer peut-être de percuter. On va rentrer dans les 25 derniers mètres avec Pierre Lesmelou. Appui remise. Mathieu Cafaro, le centre à venir. Mike Penders qui perd le ballon. Attention, qui va boxer le ballon dans un deuxième temps, le dégager. Et Valentin Barco qui va préserver le corner. C'était pas très académique ce que nous a fait Mike Penders.
Pas du tout académique l'intervention en deux temps là.
Le soleil.
Oui, c'est toujours le soleil.
Attention, Kebal qui va provoquer. Entrée de la surface de réparation sur le côté droit, qui va remettre dans l'axe pour Maxime Lopez qui va pas vouloir frapper, qui va remettre sur Kebal près de l'angle de la surface de réparation, le centre rentrant au deuxième poteau, trop fort. Et Mike Penders qui va prendre son temps. Il reste
ça va permettre à
3 minutes
de souffler quand même.
Dommage parce qu'ils avaient, dans la construction, ils avaient bien attendu
de terminer sur ce geste là.
Il y avait 3 parisiens
la mauvaise zone.
Qui étaient dans la, plutôt vers le premier poteau. Il a choisi le deuxième.
Et là, le gros travail d'Emmanuel Emega qui est allé obtenir un coup franc. Alors qu'il récupérait ce ballon au duel aérien sur le dégagement de Penders, et le défenseur c'est Chergui qui a ceinturé Emega. Ah, il en prend de la place, il va vite, il est grand, c'est vraiment un attaquant très élégant, très puissant. Il y a vraiment tout chez le capitaine alsacien, buteur pour le but du 3-1. Mais il y a bien 3-2 au score et il reste un peu plus de 2 minutes désormais à Jean Bouin. Et on prend son temps du côté du Racing. Valentin Barco qui va pas frapper tout de suite ce coup de pied arrêté dans le camp des Parisiens, qui va trouver Amougou justement. Valentin Barco qui va essayer de centrer deuxième poteau pour Emega. C'est un peu trop profond, un peu trop profond pour qu'il puisse remettre ce ballon. Et Nkambadio, le gardien du Paris FC, qui va se précipiter pour peut-être l'une des dernières tentatives. Il reste une minute un petit peu plus pour le Paris FC. Kebal qui va essayer de remonter le terrain. On est quasiment à l'arrêt, on a beaucoup donné, on a beaucoup couru. Thibaut Despet qui a du champ pour le Paris FC, qui va franchir la ligne médiane, le ballon sur le côté gauche avec Mathieu Cafaro. Il y a Guéladoué, il y a Amougou, il y a Doucouré pardon, qui est là pour défendre. Les 10 joueurs de champ strasbourgeois évidemment en défense. Le centre peut-être à venir pour Nouadiko, signé Maxime Lopez. Finalement le ballon qui va être récupéré par Emega. Ouh, Embo heureusement qu'il sauve cette balle, sinon Emega il partait seul au but. Le ballon pour Maxime Lopez dans les 35 derniers mètres, qui n'a pas trop de solution, qui va essayer de trouver sur le côté droit un coéquipier. C'est fait, le centre à venir peut-être pour Nouadiko. Il y a également Limani Gori qui demande, c'est Jean-Philippe Crasso qui était au centre, qui récupère ce ballon sur le côté droit parisien. Le ballon pour Maxime Lopez qui va centrer. Il dit bon, ce centre au deuxième poteau, mais ce sera directement parce que c'est trop près de Mike Penders. Je pense qu'on va pas loin d'en rester là dans cette partie et cette victoire qui serait plutôt logique quand même du Racing Club de Strasbourg.
Ouais, reste une minute.
Allez, il y aura peut-être encore une opportunité
sur les centres. Seb, là, le Paris FC, faut s'appliquer quand même un petit peu.
En plus, moi, même s'il reste très peu de temps, il essaie quand même de construire. Ouais. Mais c'est vrai que sur la dernière passe. Puis après, tous les Strasbourgeois, mis à part Emega qui reste devant et encore qui participe quand même à l'aspect défensif, ils sont tous derrière. Et compliqué, même s'ils l'ont fait, et peut-être qu'il restera une opportunité, il restera peu de temps.
Et c'est peut-être celle-là, effectivement, la dernière opportunité pour le Paris FC, qui est mené 3-2 par Strasbourg. Cafaro sur le côté gauche, qui va rentrer dans les 30 derniers mètres. Ah, il a voulu passer entre les jambes de Mathis Amougou. Il a perdu le ballon et il va même commettre une faute, Mathieu Cafaro. Et ça va probablement sceller l'issue de la rencontre et surtout, mettre un terme aux derniers espoirs du Paris FC qui a couru le score après toute la partie. 1-0 pour Strasbourg à la pause. 2-0, réduction de l'écart rapide pour le Paris FC. 2-1, Emega marque le 3-1 et dans le temps additionnel de cette rencontre, le but du Paris Football Club avec Alimani Gori, ça a fait 3-2, ce sera probablement le score final. Mike Penders qui prend son temps, qui va prendre un petit carton jaune pour avoir trop pris son temps. Voilà, monsieur Texier qui le donne, mais bon, si ça peut permettre de gagner 20 secondes, il a un petit peu, il comprend pas trop. Mike Penders, le dégagement sur le côté droit pour essayer de trouver Emmanuel Emega. Il y a la tête de Thibaut Despet. Monsieur Le Texier qui va peut-être laisser jouer cette dernière action avec Embo. Oh, fallait trouver Jean-Philippe Crasso qui demandait, Alimani Gori, pardon, qui demandait le ballon sur le côté droit finalement. Le ballon dans l'axe avec Maxime Lopez. La faute d'Emmanuel Emega, il n'y a rien, et peut-être le contre strasbourgeois Emega qui va donner le ballon sur Guédadou et sur le côté droit avec désormais Doucouré, Ouattara, et c'est terminé. La victoire du Racing Club de Strasbourg, 3-2 ici au Paris FC, la quatrième victoire en 5 matchs. C'est pas encore la réconciliation entre une partie du COP et Emmanuel Emega, mais il a quand même été applaudi, hormis quelques Ultra Boys 90. Il n'y a pas eu de sifflet pour le capitaine strasbourgeois. Et le Racing qui donc tutoie les sommets de cette Ligue 1 avec ses 12 points désormais au classement et cette victoire ici au Paris FC, 3-2.
Merci beaucoup Arnaud, merci Seb d'avoir été
merci
avec
à vous,
moi.
On a vu des buts finalement.
Et exactement, tu vois, on s'est régalé à cette belle victoire de Strasbourg, 3-2 face au PFC. Vous restez bien sur RMC dans quelques instants, la suite de l'intégrale foot avec Karine Galli, avec Coach Courbis. Vous allez suivre l'U-Multiplex avec 3 affiches évidemment à 17h15 et puis toutes les infos autour du report d'OM-PSG. On vous rappelle que ce sera demain à partir de 20h évidemment, à suivre sur RMC.